Non, mais tu vois, parce qu'il aime bien tourner les pages, c'est son côté, ah, c'est son côté Fabrice Drouel.
T'as bien ça. Je me demande, est-ce que ça te gêne? Non, non, ça va, je comprends.
Je dis c'est loin, mais c'est beau. Comment ça va? Je disais c'est loin, mais c'est beau.
Mais personne dit ça. Jamais de la vie.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
C'est de vous la phrase, vous l'avez entendu ça?
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Baby Graveurs, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en mode histoire parallèle, une discussion ouverte sur un film dont l'histoire est inventée, mais placée dans une réalité historique. Je suis Thomas Leud. Et Thibaut Provino est déjà mort derrière.
Désolé.
Ça arrive.
C'est le stress.
La table en bois.
Donc je serai accompagné aujourd'hui, vous les avez entendus dans cette aventure, de Julien Lemoël. Salut professeur.
Salut Thomas.
C'est toi qui nous reçois ce soir.
Oui. Voilà. Content de vous accueillir.
Ah, vas-y. Plaisir d'être là. Et Thibaut Boivino, salut Thibaut.
Messieurs, bonjour.
Alors aujourd'hui, or, sang, vieil homme taiseux et nazi trucidé, nous allons parler de Sissou, bande-annonce.
Chercheur d'or.
On est riches, les gars.
Allez, à genoux.
Bute-le.
On a de l'or.
C'est un ancien commando. Il a perdu sa maison et sa famille à cause de la guerre. C'est un escadron de la mort à lui tout seul. C'est le genre de salopard avec qui il vaut mieux pas chercher la merde.
Vous allez voir ce qui se passe quand on lui enlève ce qui compte le plus pour lui.
Vraiment qu'il est immortel?
Non, il refuse de mourir, c'est tout.
Combien de mines on a enterré ici?
Tout ce qu'on avait.
Toi? Et toi?
Ce qui compte, c'est pas d'être le plus fort. C'est d'être celui qui abandonnera pas. On a un mot pour ça en Finlande.
Sissou !
On pourrait bien avoir un problème.
Oh putain, il y a une bande-annonce. Ah, j'ai trouvé la bande-annonce en français.
En français ?
Autant te dire que. Elle envoie, comme le film, elle envoie du steak.
Trop bien.
Alors Sissou ! Titre français, ils ont pas pu se contenter de 6 sous. Donc ils ont mis 6 sous, de l'or et du sang.
Mmh. Voilà.
Quelle bonne idée.
Oui.
Le titre original, oui, c'est 6 sous. Et tu me posais la question tout à l'heure, Thibaut. Non, non, c'est Julien qui
non,
posait
non,
la question.
Non,
c'est... Il n'y a
c'est
pas...
C'est connaître. Hein.
Ah, c'est fou, quand même. Après toutes ces années, oui. Il n'y a pas de titre québécois.
Non.
Désolé. C'est un film réalisé et scénarisé par Jalrami Elander.
Jalmari, pardon.
Oui, oh là là, j'écorche son nom.
Ce ne sera pas le premier, le dernier qu'on avait écorché ce soir,
clairement,
je pense.
Clairement pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Eh bien, il a fait des films qui nous parlent, puisqu'on a vu son premier film qui s'appelle Père Noël Origine, qu'on avait traité lors d'une soirée de Noël. Il a fait un film qui s'appelle Big Game, et puis Sissou et Sissou 2, Le Chemin de la Vengeance.
C'est pas au courant qu'on a vu. Il y a un nouveau film de prévu.
Et il y a un nouveau film de prévu.
Qui s'appelle
John Rambo.
John Rambo.
Ouais, tout à fait.
J'ai peur.
Bah, ça dépend.
Je
si,
sais pas, ouais.
Si pour jouer John Rambo, il prend Jorma Tomila.
Oui, c'est compliqué. Ça
peut le faire.
Non, parce que c'est sur la.
Sur la jeunesse.
La jeunesse il va rencontrer Trotman, j'imagine. Tout
oui,
ça
peut être formidable. Ça dépend qui.
Bah, ça deviendra le meilleur des meilleurs. Quoi.
Ça dépend qui scénarise, ça dépend comment c'est branlé. Non, mais je pense qu'il y a des exécutifs à Hollywood en 2022 qui ont vu Sissou, qui se sont dit.
Ben ouais, mais
on tient notre futur réalisateur de Rambo. Ah, là,
c'est ouais, bon. Mais tu vois, mais Rambo, c'est le 1, c'est un film qui est quand même assez très taiseux.
Oui.
Où il y a un mort et où c'est l'histoire d'un mec qui a mal vécu le Vietnam, qui vient.
Qui se réinsère pas.
Qui
a un vrai message de société.
Et 2 et 3, ça part en cacahuète. Où là, ils ont lâché les vannes et puis c'est de la baston.
Et du nanar.
Et du nanar en froid, quoi. Donc sur quel truc ils vont partir, quoi. Est-ce qu'il part sur l'idée de faire après qu'il y a Rambo 1, où il part complètement dans le délire Rambo 2, Rambo 3, qu'on voit un peu dans Sissou d'ailleurs. Je ne sais pas trop dans quoi il va partir. Quoi.
Et ils étaient repartis un petit peu sérieux sur John Rambo avec Stallone, mais oui, effectivement, quelle orientation ils vont donner à ce
film. Parce que le film dont on va parler ce soir, il est un peu sur les deux registres, quoi. Côté sérieux, toi, western, un truc vachement taiseux, et à côté, ça part en cacahuète avec des.
Faut pas que tu parles.
Non, avec des nazis qu'on trucide et qu'on boit.
On en parlera plus tard.
Oui, Thibaut nous a demandé de faire un top. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. La photographie, c'est Kjell Lagerhus. Et je cite le chef-op parce que. Je sais pas si vous avez trouvé, mais moi j'ai trouvé que la photo était extraordinaire.
Pourquoi extraordinaire?
Ah si, franchement.
Les paysages sont magnifiques.
Oui, les paysages sont chouettes.
Laponie en octobre,
et ils ont tourné exactement à cette période-là parce qu'ils savaient qu'ils avaient une période de 3-4 semaines qui était propice à avoir ce genre de paysage et ce genre de couleurs.
Je peux même te dire, dans la ville où ils ont tourné, si tu me laisses retourner mes pages.
Vas-y, Fabrice.
Parce que j'ai retrouvé ce tournage extrême en Laponie, ça s'appelle. En Laponie finlandaise, notamment à Nourgam, le point le plus au nord de l'Union Européenne.
La ville
donc le plus au nord, ouais. Plus au nord,
Même en Norvège, ils n'ont pas de ville plus haute que ça.
Après, ça dépend. Tu mets le curseur pour dire que c'est une ville.
Oui, d'accord. Oui, s'il y a trois baraques.
Ouais, je pense que moi qui suis allé à Tromsø, je pense que je.
Oh putain, une lac.
Monsieur a vu des aurores boréales.
Moi, j'ai mangé du saumon pendant 2 semaines.
Voilà. Super. Et budget 6 millions d'euros. Voilà. Alors, effectivement, il y a 10 acteurs dedans. Hein, plus. Il y a un char quand même. Hein, voilà.
Un avion.
Deux avions. Ouais. Enfin, deux épaves d'avions. Que les avions, quand ils volent, c'est plus des CGI, on va pas se mentir. Au box-office, le film a rapporté 14 millions de dollars recettes monde, dont la moitié aux États-Unis.
Alors moi, sur les 14 millions de dollars, j'ai vu 11 millions box-office et 3 millions sur la vente de DVD.
Ouais, énorme en streaming.
Ouais, pas mal. Ouais,
et 2,5 millions en Finlande. Voilà. En France, confidentiel, 75 000 entrées sur 4 semaines de diffusion.
Dont nous,
et oui, j'allais le dire, Julien, nous avions tenté l'aventure. Et c'est le moment de se rappeler l'étrange séance. Feu l'étrange séance, qui nous proposait des fois des nanars, des fois des films un petit peu. What the fuck, sous le manteau. Et quand on a vu Finlandais. Tuer des nazis sur une séance comme ça, on s'est dit bon, les mecs doivent savoir ce qu'ils nous proposent. Allez, on y va. C'était bien cool comme séance. Le film, en plus, la politesse de durer 1h30.
Oui.
Ce qui est bien parce que.
Ce qui plaît à Thibaut.
Ça condense le nombre de meurtres sur une durée assez courte. Donc, c'est plutôt cool. Le film était sorti en septembre 2022 au Festival de Toronto.
D'accord.
Et puis
il n'y avait pas de titre québécois.
Quelques mois plus tard, en janvier 2023, en Finlande, et chez nous, il est arrivé à l'été. Et on l'a dit, le film a une suite, Sissou, Le Chemin de la Vengeance, qui est sorti l'année dernière, en 2025. et qui est beaucoup moins bien.
Tu l'as vu ?
Je l'ai vu. Tu l'as vu, oui, d'accord. Ouais, je ne sais pas si tu l'as vu, parce qu'on en a parlé, tu ne l'avais pas vu. Donc,
si, si.
Tu l'as
déjà
vu ? Si, si. Ouais, moi, je n'ai pas du tout apprécié.
Le char qui fait des cabrioles et tout.
Ouais, c'est ouais.
Thibaut ne l'a pas vu. Oui, il met, pour te la faire rapide, alors tu remplaces les nazis par de la vermine communiste, parce que ça se passe dans les années 50.
En 47.
Oui, après les rétrocessions définitives. Et notre héros, en fait, veut aller récupérer sa maison qui est en territoire russe.
Ah merde!
Donc il passe illégalement la frontière avec un camion pour démonter sa baraque, littéralement. Il charge les poutres de bois dans le camion. Et puis,
En parlant,
toujours pas beaucoup.
Non.
Et puis, les Russes, on vent qu'il vient, machin et tout.
Donc surtout, c'est le tueur de Russes.
Voilà, histoire de vengeance par rapport au fait qu'il ait tué 300 ou 500 ou 1000 Russes pendant la guerre. Et donc, ensuite, le scénario est littéralement copié-collé par rapport au premier. Et notamment, à un moment, il veut repasser la frontière avec un char. Et quoi de plus simple que d'enjamber un barrage en mettant tout un tas de bombes explosives à l'arrière du char, de tout faire péter et faire un double salto au char pour passer au-dessus des barbelés de la frontière.
C'est vrai que les chars, les barbelés, c'est ce qui les embête en plus.
Tout à fait.
C'est un poil tout match à ce moment-là. J'ai un peu décroché.
Là, on se dit, ouais, ok, les potards, ouais. c'est plus que au-delà, en
puis,
fait.
Clairement, c'est bien. Il y a une surenchère dans la souffrance aussi, dans le truc qui sont un peu dégueulasse. Dans le train, là, ça devient
dans les scènes de torture et tout, machin. Ils se sont dit, non, mais ils ont foutu.
Oui.
Là, dans le premier, on est potard à 11-12 sur 10. Bon, on va allègrement à 20-25 dans le deuxième, parce que pourquoi pas.
Ouais. Ouais. J'ai vraiment décroché. Là.
Ouais.
Le 2, j'ai décroché.
Zéro intérêt. La distribution, donc l'acteur principal s'appelle Jorma Tomila, et on l'a vu dans Père Noël Origine.
Oui,
si on avait regardé Big Game, on l'aurait vu aussi. Et puis dans Sisu 1 et 2, c'est un petit peu l'acteur fétiche du réalisateur.
J'ai bien compris, ça doit être son beauf ou
ils sont
de la même famille.
Je ne sais pas.
Je crois qu'ils sont de la même famille.
Un acteur norvégien qui s'appelle Axel Enni, qui joue le commandant SS. Et qu'on a pu voir dans Hercule, dans un épisode de 24 heures chrono, et également dans Seul sur Mars de Ridley Scott.
Voilà. On a les mêmes.
Source IMDb ou Wikipédia, on va pas se mentir. Et puis derrière d'autres acteurs qui s'appellent un anglais qui s'appelle Jack Doolan, une nana, la nana qu'on voit le plus.
L'anglais, il joue dans Hooligan, c'est dans la série White Gold quand même.
Ok.
Que j'ai pas vu. Et le conducteur du char, qui est un acteur qui s'appelle Oni Tomila, qui est le fils de Jorma Tomila,
et qui joue dans
Père Noël Origine, joue le fils. La vie est un éternel recommencement.
Et avant que tu passes à autre chose, Thomas, moi tu sais que j'aime bien quand il y a des récompenses, j'aime bien quand il y a des notes.
J'avais noté, on passe à la suite, mais vas-y, critique. Alors, Les notes.
Alors j'ai la classique Allociné, oui. 3,2 sur 5.
C'est pas
la
bien
classique payé, hein. IMDb 6,9 sur 10. Mmh. Un petit Rotten Tomato à 94%.
Ouais.
Et la dernière pour Julien Lemoyel, Télérama 4 sur 5. Ouais. Noté comme une sorte d'inglorious bastard absurde transposé dans les paysages sublimes de la Finlande, un réjouissant jeu de massacre contre les nazis.
On la voit beaucoup,
ouais,
là.
C'est le côté massacrage de nazis, hein,
c'est un peu
Tarantino, quand même.
Avec les chapitres et tout, machin.
Oui, mais c'est le chapitrage, voilà. Mais la Jackie Brown,
parce que
qui elle-même est prise par rapport à la
Black Bastard, c'est chapitré, hein.
Oui, mais c'est déjà une référence à la Black Exploitation et à Foxy Brown et à tout ça.
Bien sûr, mais... Mais parce que c'est des trucs que t'as vu chez Tarantino.
Du massacre des nazis, parce qu'il y a un peu de Tarantino, un peu de western, tout ça.
Sympa. C'était plus le western, je vois bien les références au western.
Et bah oui, bien sûr.
La rigueur, les références à Mad Max Fury Road, les références à toi, des trucs comme ça, mais Inglourious Basterds, vous voyez moins.
Je pense que tu dis que c'est une sorte de Jackie Brown. Les gens font, je comprends pas, parce que c'est Inglourious Basterds qui est sorti peu de temps.
Parfait.
Il y a des distinctions, tu voulais en parler. Ce film a eu des récompenses.
Oui, alors un festival unique. à Jussis, qui doit être, ma foi, en Finlande, je pense.
Meilleur film, meilleur réal, prix du public pour l'acteur de l'année, meilleure conception de costume et meilleure musique.
Ça, les costumes.
Et là, je suis obligé de t'arrêter.
Parce qu'il y a mieux.
Non, parce que tu viens de citer la seulement musique. Les nominations. Ah, et il ne les a pas eues pour
ah,
ça.
Non, ah.
Non, mais à Jussis, il a eu la meilleure photo, le meilleur montage, la meilleure scénographie et la meilleure conception maquillage.
Il y avait un film ou quoi dans ce festival ?
Hein ?
Il n'y avait qu'un seul film pour le festival.
Et je ne sais pas. Par contre, meilleur film international au Saturn Awards.
Okay.
Et ici, il a été récompensé aussi au Festival international du film fantastique de Catalogne. Ah, tu l'avais pas, c'est
non. Par contre, voilà. Il a été film de clôture aux Hallucinations Collectives oui. En 2023 à Lyon.
Ça, ça devait être pas mal, par contre.
Et ça, film je pense que clôture, putain, l'ambiance dans la salle, ça devait envoyer.
De clôture là-dessus, c'est pas mal.
Ça devait envoyer du slick.
Et voilà.
Et pour la récompense. Dégoté quelques petites anecdotes. Ah. Alors, il y en a pas des folles quand même, mais bon, voilà. Et notamment, une dont on parle un petit peu dans le film, source d'inspiration voilà, du film, était un vrai tireur d'élite durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Simo Ayara, et qui a combattu l'armée rouge, et qui aurait, évidemment, il n'y a pas de décompte officiel, qui aurait tué plus de 500 soldats pendant la guerre d'hiver. Et c'est pourquoi il a souvent été considéré comme le tireur d'élite le plus meurtrier de tous les temps, et on l'a surnommé Peste blanche.
Moi, j'ai une autre référence, tu vois.
Vas-y.
C'est la fille. Ouais, en fait, c'est Laura Torni. Je lis un peu.
Oui, que mais lui, t'es là.
Comme sous. Ou alors, il est connu sous le nom de Larry Thorne aussi, aux États-Unis. C'est en fait un ce qu'on appelle un béret vert finlandais. Donc, j'avais. C'est les. Alors, j'avais noté, c'était les cocos partiaux. C'est les bérets verts finlandais, c'était leur nom. Qui, pendant la guerre, donc. Continuation, donc 40 à 44.
Il est renseigné.
On va en parler tout à l'heure des guerres finlandaises.
En fait, c'est l'équivalent béret vert, mais pour la Finlande, partait sur les lignes russes à 300 km, faire des exactions, poser des bombes. Et ce mec-là, en fait, a
comme les SAS, en fait.
Était tellement redouté qu'il a eu une prime sur sa tête. Les Russes avaient mis une prime de 3 millions de marks finlandais sur sa tête. Ça ressemble un peu au film. Et après, il est tourné, donc, il s'est re-engagé dans la SS, dans la Wehrmacht. C'est là, une fois que la guerre de continuation était finie, il a été chez les... Il n'y avait pas cette guerre, donc il s'est dit, je vais aller avec les Allemands, avec les nazis. Une fois que la Seconde Guerre mondiale est finie...
On continue à tuer des Russes.
Il n'a pas fini, il s'est dit, bah tiens, il est reparti avec les Américains. Et là, il est mort au Vietnam. Donc ce mec, c'est là, en fait, où son nom, c'est Larry Thorne. C'est qu'en fait, il est finlandais, combat les Russes...
Pendant la Seconde Guerre,
avec la Wehrmacht. Une fois que la guerre se finit, il retourne avec la Wehrmacht, il continue la guerre, il repart avec les Américains, il termine au Vietnam et où il meurt. Et c'est aussi une des influences...
Une belle carrière.
C'est une des influences du film, en fait. Ce mec-là a vraiment existé. Et il ressemble quand même un peu à notre héros ou anti-héros de ce soir. Ouais, il y a deux influences, celle que tu as dite et celle-là aussi, où il y a vraiment un... Commando qui a eu 3 millions de marques finlandaises sous sa tête.
Les acteurs ont tous insisté pour effectuer leur propre cascade pendant le film.
Il y a beaucoup de cascades.
Il y en a quelques-unes quand même.
Peut-être se baigner dans le lac, peut-être la cuillère.
on rappelle que le film était tourné en octobre, que déjà en octobre en Laponie ça commence à cailler sévère.
D'ailleurs, dans le nord de.
Justement, les acteurs ont dit qu'ils avaient beaucoup. Du froid, ils avaient les muscles complètement tétanisés.
T'étais sur du moins 10, moins 15, moins 20 degrés par
disent qu'il y a des vents à 110 km/h. C'est que ça. Parfois ça s'est calmé, ce qui a permis d'ailleurs
de filmer la scène de nuit.
Scène de nuit où comment la pondaison. Ce à quoi Jack Donnan a confié, cela peut avoir l'air un peu macabre et tordu, mais j'ai vraiment aimé cette scène. J'ai eu le sentiment de profiter de ce moment.
Ça, dans le nord de la Laponie, avec les vents à 110 par moins 10 degrés, je pense que tu dois être au maximum.
Ouais, t'es tranquille. Mais c'est vrai que sur beaucoup de. Alors, il n'y a pas beaucoup d'arbres, de végétation, tout ça, sauf quand ils sont dans les scènes à la fin, quand ils arrivent vers l'avion. Mais autrement, c'est assez nu, une vraie steppe. Mais tu as certains plans où effectivement tu vois notamment l'officier SS qui est avec son, son, comment,
sa gabardine.
Sa gabardine de cuir et qui bouge beaucoup au vent. Tu te dis, tiens, quand même, ça peut être super, super agréable. Et à noter que le titre du film, le mot Sissou, n'est pas prononcé une seule fois pendant tout le film.
C'est vrai. Ils en parlent.
L'actrice en parle. Non. En disant à un moment, ouais, c'est un...
C'est le concept.
Hein. C'est le concept, il y a un terme qui est intraduisible pour vous. C'est même ce qui est noté sur un panneau au début du,
au début du film. Hein.
Mais effectivement, il n'en parle pas parce que... Bah oui, les Finlandais, en fait, ne peuvent pas... la langue finlandaise ne permet pas de traduire ce terme. Voilà. Et avant de s'attaquer au film, comme on le fait souvent... de recontextualiser un petit peu historiquement où on en est, parce que s'il y a un truc qui peut, pour ceux qui n'ont pas suivi la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les pays scandinaves et spécialement en Finlande, ça peut ne pas apparaître très clair la façon dont la Finlande a subi ou géré le conflit de 1939 à 1945.
Allez, Jamy.
On peut séparer en fait les événements de la Seconde Guerre mondiale, même si dans l'imaginaire finlandais en fait ils étaient dans leur guerre à eux et ils n'ont pas vraiment participé, ils n'ont jamais eu vraiment le sentiment de participer au conflit mondial.
Ouais, ils ont plus essayé
de survivre, sauver leur civilisation en fait. Ouais. Mmh. Et ils ont connu en fait trois périodes, trois guerres, la guerre d'hiver. Donc de novembre 39 à mars 1940, qui a vu la Finlande être opposée à l'URSS, qui à cette époque-là était liée à l'Allemagne par le pacte germano-soviétique. La guerre de continuation de juin 41, donc au moment du déclenchement de l'opération Barbarossa, invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, jusqu'au peu près 19 septembre 1944, qui là aussi a vu l'URSS affronter la Finlande. Et ils ont terminé par la guerre de Laponie, donc du 15 septembre 1944 au 27 avril 1945, où la Finlande, là, était alliée à l'Union soviétique.
Elle n'est pas alliée.
Alors, de circonstances d'obligation, on va dire.
Mais comme l'alliance avec les nazis était un peu de circonstances aussi pour récupérer les territoires perdus.
Et pour obtenir des armes.
Et du fait que les alliés ne les avaient pas aidés dans la première guerre.
Oui. Contre les Russes.
La guerre d'hiver. Vu qu'ils n'avaient pas été aidés. Ils sont retournés vers les Allemands pour avoir de l'aide, et c'est là que ça continue après, quoi. Ils sont aidés par les Allemands, ils sont attaqués par les Russes. Il y a un traité à la fin, en 1944, de la Russie, et ils se retrouvent face à leurs anciens alliés, à devoir leur demander de quitter le pays.
Voilà.
Pour récupérer les...
C'est ce que les Russes ont exigé de la part de la Finlande, c'est-à-dire de faire le boulot. Déconduire gentiment les nazis vers la Norvège, notamment.
C'est d'ailleurs même une obligation.
Oui, et de démanteler.
C'est dans le contrat. Hein.
C'est dans le contrat.
Il faut chasser les vaches. C'est dans le traité, effectivement. C'est dans le traité de paix. Et parallèlement à ça, en plus, on leur demande de virer les nazis de Finlande. Et en plus, de démobiliser l'armée en même temps. Donc,
c'est une injonction totalement impossible à faire.
Oui.
Surtout qu'ils ont un temps limité pour le faire.
Oui, ils doivent dire aux Allemands, vous avez grosso modo 15 jours ou 3 semaines pour quitter le territoire, ce qui matériellement était impossible. C'était estimé au moins à 3, 4, 5 mois pour le faire.
Surtout qu'il y avait 200 000 soldats allemands, grosso modo, à peu près estimés sur les terres finlandaises.
Oui, tout à fait. Bah oui, parce que
ça ne se bouge pas comme ça, 200
000 soldats. On l'a pas dit non plus. Il y avait aussi une raison économique à la présence allemande en Finlande, qui était alors la fourniture d'armes d'un côté à l'armée finlandaise pour combattre les soviétiques. Ils étaient bien contents d'avoir un allié de circonstance à cet endroit-là pour empêcher les Russes de passer par là. Et également des mines de nickel dont l'Allemagne nazie avait cruellement besoin pour les efforts de guerre.
Dans la région de Pétersbourg, mines de nickel qui étaient aussi pas mal d'industries françaises et anglaises qui étaient installées là-bas. Donc c'est pour ça notamment qu'ils pensaient que les Anglais seraient impliqués plus dans oui. là-dedans au tout début.
Oui, et alors que les Anglais
n'ont pas
plus participé que ça.
Du coup, maintenant qu'on a mis tout ce contexte, nous, notre film, il se situe...
Pendant la guerre de Laponie.
En pleine guerre de Laponie. Voilà. Quand les Allemands doivent partir, retourner d'ailleurs vers la Norvège.
La retraite.
Donc, alors on va pas dire qu'au début de au septembre 44, on va pas dire que l'évacuation se passe bien. Elle se passe.
Ça se passe bien.
Elle se passe. Il y a quelques tensions de droite et de gauche, mais
je vais vous lire comme un petit message. C'est en septembre de 44. Tu l'as lu, non? Ce petit message.
La lettre du président finlandais à Adolphe.
Adolphe.
Oui, voilà, j'ai lu cette lettre.
Non, peut-être que ça se passe bien. Quand on est arrivé à écrire des petits courriers comme ça.
Écoute, le courrier qui est retranscrit fait 15 lignes. Il est, ma foi, fort sympathique.
Quelques lignes.
Une quinzaine de lignes.
Ça commence par « Nos frères d'armes allemands resteront à jamais dans nos cœurs ». Ça sent pas comme la grosse bagarre. Ça sent pas la l'inimitié, quand même.
Non, c'est sûr.
Les Allemands en Finlande n'étaient certainement pas les représentants du despotisme étranger, mais des aides et des frères d'armes. Mais même dans de tels cas, les étrangers se trouvent dans des situations difficiles, exigeant un tel tact. On sent pas quand même qu'ils vont les taper sur la gueule à ce moment-là. Je peux vous assurer qu'au cours des dernières années, il ne s'est rien passé qui aurait pu nous inciter à considérer les troupes allemandes comme des intrus ou des oppresseurs. Je crois que l'attitude de l'armée allemande dans le nord de la Finlande envers la population et les autorités locales entrera dans notre histoire comme un exemple unique d'une relation cordiale et correcte. J'estime qu'il est de mon devoir de sortir mon peuple de la guerre. Je ne peux et je ne retournerai pas les armes que vous nous avez si généreusement fournies contre les Allemands. Je nourris l'espoir que vous, même si vous désapprouvez mon attitude, souhaiterez et vous efforcerez, comme moi et tous les autres Finlandais, de mettre fin à notre ancienne relation sans accroître la gravité de la situation.
Il y a des relents de péténisme là-dedans.
Ça sent l'agacement. Ça a l'air cool ce qui se passe.
Ah oui,
c'est en septembre.
C'est en septembre. Et la situation va commencer à se tendre à peine un mois plus tard. Mi-octobre, déjà, ça commence à être un peu tendax.
Peut-être parce que nos amis allemands, quand ils retraitent,
oui.
ils ont une stratégie bien particulière, ma foi.
Alors,
pas tout de suite. Là,
c'est parce que, justement, on commence à les pousser au cul un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. Parce que tonton Adolphe, il est sympa, mais il ne veut pas lâcher ses approvisionnements de minerais comme ça. Donc, il essaye de faire durer les choses le plus longtemps possible. Et quand les Finlandais qui sont entre la faucille et le marteau...
Les Allemands coulent des navires.
Oui,
ils veulent couler des navires finlandais, donc ça ne plaît pas trop.
Ça ne plaît pas trop. Et les tensions commencent à arriver, entre Allemands et Finlandais par petites touches à partir de la mi-octobre. Et quand ça commence à sentir un petit peu le roussi, c'est effectivement là que les Allemands
pratiquent leur technique favorite.
Emploient une technique qu'ils ont aussi employée lors de la retraite de Russie,
de France.
Un petit peu, mais pas. Ils n'ont pas trop eu le temps. Est-ce qu'on peut...
Le Limousin dirait peut-être.
C'est
différent.
Tu le radour, c'est pas vraiment la politique de la terre brûlée.
C'est pour un faire peur à la résistance. Oui. Mais ça reste dans une idée, dans la même idée. C'est-à-dire de...
Dans la terre brûlée, c'est vraiment tu rases toutes les ressources pour empêcher l'autre après de les récupérer. Et là, c'était pas trop le cas en France.
En Finlande, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas eu de massacre de civils à proprement parler au moment de la retraite allemande. La guerre de Laponie, j'étais très surpris du nombre de morts. On est à 700 morts, je crois, côté finlandais et 1500 ou 2000 côté allemand, tu vois. Alors que, comme tu le disais tout à l'heure, Thibaut, il y avait 75 000 finlandais d'un côté, 200 000 allemands de l'autre. Si c'était vraiment foutu sur la gueule, on ne serait pas à ces pertes-là, quoi. Donc, le contexte historique étant un petit peu replacé, on est...
Nos Allemands partent.
À l'automne... Hein.
Mécontents.
Voilà. À l'automne-hiver 1944.
Et décident de tout cramer derrière.
Voilà.
Violer tout ce qu'ils peuvent.
Et puis, d'emmener des provisions. Parce qu'il y a quand même 6 nanas, je crois, qui sont dans un... Euh, qui sont dans un camion et qui sont là juste uniquement pour satisfaire les besoins, les envies.
C'est froid.
J'ai rien trouvé.
La FNSS.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est.
Des exactions, si, il y en a eu.
D'enlèvement. Enlèvement de femmes, tout comme ça. J'ai pas trouvé de choses vraiment. Alors, ça fait partie des. C'est noté, si tu veux, mais quand tu recherches historiquement, tu trouves rien. C'est apparu comme fait, mais pas.
Après,
je pense sourcé que ça.
Je pense que l'idée, c'est plus de dépeindre un peu le côté
dégueulasse. Oui, c'est un film.
Moi, ce que j'ai noté justement sur la partie victime civile, ou en tout cas qui incluait les civils, c'est le. Alors, on va y venir, il y a une scène, The Landmine. Le champ de mine et le minage terrestre a été massif au moment de la retraite allemande et elle a causé en fait des pertes civiles à ce moment-là, mais des dizaines d'années en fait après la guerre aussi.
Ça a été le plus grand minage de la Seconde Guerre mondiale en fait. C'est la zone qui a été le plus minée de toute la Seconde Guerre mondiale.
Il semble que justement moi ce que j'ai pu voir aussi, c'est quand ils ont tourné dans la zone, il y avait encore des mines. Enfin, la zone étant tellement immense et tellement abandonnée. Il est fort possible que tout n'ait pas été déminé et qu'il y ait encore des mines dans cette zone-là pendant qu'il tournait.
Sympathique.
Et pour parler également des femmes finlandaises, il y en avait qui avaient été fiancées à des soldats allemands ou qui avaient travaillé aussi pour l'armée allemande pendant les 4 ans de la guerre de continuation.
Je crois qu'il y a même eu des Lebensborn
en Finlande aussi.
Ah oui. C'est justement là. J'ai écouté un petit podcast sympa de Fabrice Drouel sur les Lebensborn.
Sur les Lebensborn.
Des blonds, des bleus en Finlande.
Il y en avait pas mal en Finlande.
Les Titi et les autres.
La plus connue étant une des chanteuses d'ABBA qui est suédoise, mais qui aurait été dans un Lebensborn.
Qui serait née dans un Lebensborn. C'est avéré ou
c'est. En tout cas, c'est ce qui est balancé dans le podcast. C'est ce qui est balancé dans le podcast. C'est sensible quand il lance ça.
Oui, c'est que c'est. Oui, c'est sourcé a priori.
Mais comme tu vois, il y avait une entente assez cordiale entre les Allemands et les Finlandais.
Tout à fait.
Pourquoi tu prêterais pas tes femmes pour faire un peu de génisme et perpétuer la race arienne?
Alors, celles qui étaient dans le camion, je pense pas qu'elles aient été prêtées. Je pense qu'elles ont plutôt été embarquées de force, effectivement. Et donc, ce qui nous amène à notre début de film, où...
Notre ami, il
a un nom, hein, Atami Korpi.
Atami Korpi.
Ils lui ont quand même donné un nom, faute de lui donner la parole.
Ce nom de joueur de hockey, quoi.
Totalement. Et on a une séquence qui ouvre le film. Alors, j'allais dire qu'il dure un quart d'heure, un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il se passe pas loin d'un quart d'heure avant que les premières paroles soient prononcées dans le film.
J'ai regardé 12 minutes.
40, ouais. Mais effectivement, avant qu'il arrive à la rencontre du convoi allemand, il est tout seul avec son clébard, quoi. Hein, donc
plan très western.
Au milieu de la scène,
le début, il est super.
Ah ouais.
Dans les 12 premières minutes. Mmh.
Le paysage, la couleur,
les références au western des années 60 et Sergio Leone, tout ça, j'ai adoré ces plans-là. Ça tranche un peu, est-ce qu'on voit
avec ce qu'on voit, oui, la poésie qui est latente pendant ces 10-12 premières minutes, effectivement, couleur, mais même les même de nuit et tout, enfin, tout est magnifique en fait, dans cette partie là. L'office du tourisme de Finlande peut passer les 12 premières minutes du film, t'as envie quand même d'aller un peu te balader là-bas.
Il y a beaucoup d'autres scènes aussi où qui donnent vachement envie entre les
entre deux massacres,
entre deux trois massacres.
Mais bon, voilà, le film démarre vraiment à l'acte 2, The Nazis.
t'as quand même le
la découverte.
Ce qu'il faut rappeler quand même aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film. C'est qu'on a quand même notre ami Korpi, qui est un
orpailleur.
Un orpailleur, et qui est présenté au départ comme un orpailleur, et qui trouve un filon.
Oui.
Qui creuse.
D'abord, il est en rivière, il trouve une toute petite pépite, effectivement.
Et là, il se dit,
il
y a quelque chose qui se passe par là.
Cette terre est riche.
Donc, il creuse ensuite beaucoup de trous, et il trouve de l'or. Et là, c'est la première fois qu'on le voit ému. Avant, on a quand même un homme qui, à la fois...
Quand il trouve sa toute petite pépite avec sa petite coupelle, là, il réprime un cri, un râle assez,
C'est d'ailleurs historiquement vrai. Il existe de l'or dans cette région de la Finlande.
Et je dois vous dire que je suis allé en Laponie il y a très très longtemps. Et j'ai moi aussi
tamisé,
cherché. J'ai pas trouvé un dixième de demi-gramme d'or, évidemment. Mais c'était rigolo à faire de voir que cette région-là était propice à ça. Et il trouve un tout petit filon, quoi.
Un tout petit
filon. Il y a quoi? Il y a 10-20 kilos. Tranquille. Le truc que tu trouves jamais, bah lui, Euromillion.
Donc notre ami a trouvé de l'or. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas vraiment pitché le film, mais c'est que c'est un ancien soldat qu'on a un peu ras la casquette.
Qui s'est mis au vert, quoi.
Qui s'est mis au vert et qui s'est dit, tiens, je vais trouver de l'or et puis je vais faire autre chose.
Et il trouve de l'or. C'est un ancien soldat, mais on ne sait pas de quelle guerre, en fait.
Bah si, on le sait après.
Oui, ils le disent après.
Sur la guerre d'hiver.
C'est la guerre d'hiver. C'est un soldat de la guerre d'hiver.
Ah, je
il parle de la Winter War.
D'accord.
Il a tué les. Je sais plus où il disait, c'est un commando qui a tué 200 ou 300 Russes pendant la Winter War. Mais je pense qu'il a continué gentiment ses bases d'œuvres aussi pendant la guerre de continuation.
Mais en 44.
Ça veut dire qu'il a travaillé avec les gars qui attaquent dans
Possiblement. Mais c'est peut-être aussi pour ça que quand il les croise, il a un regard de dédain ou de mépris, mais pas plus d'envie belliqueuse, en fait. il passe, il fait son truc, voilà. Les mecs, vous vous barrez, barrez-vous.
Parce que, à l'époque, le commandant, justement, lors de la guerre dont on parle là, le commandant finlandais, est un ancien SS lors de la guerre de continuation. C'est-à-dire qu'il est passé de SS travailleur avec la Wehrmacht, combattant les Russes, à combattant finlandais,
les nazis.
Les nazis, donc en fait, et c'est la même personne. Quoi. Et il y a un peu ce double truc aussi qu'on
a,
l'ambiguïté.
Toute l'ambiguïté du peuple et de l'armée finlandaise pendant ces 5 années-là, ouais, c'est clair. Donc,
Il charge son or sur son
petit corpi.
Il part sur son petit cheval, avec son petit sac.
Et son petit chien. Et ça nous fait arriver rapidement au chapitre 2, les nazis, puisqu'ils croisent une colonne. C'est un petit peu amplifié la taille de l'armée qu'il va croiser, parce qu'il y a deux.
Ouais, c'est un char.
Il y a deux camions, un char et un sidecar, quoi. Grosso modo, ils sont. Ils sont une bonne grosse vingtaine, quoi.
Bah après, ils ne devaient pas être très très nombreux non plus, quoi. Chacun partait de son côté. Je suis pas sûr qu'il y avait des grosses divisions.
Clairement. Et là, ils croisent nos amis nazis, effectivement, et qui ont tous des bonnes gueules de nazis, alors que tous les acteurs, à part l'anglais, sont tous finlandais.
C'est fou, ça.
Et sauf le lieutenant, il est norvégien.
Ah oui, c'est vrai. J'ai bien vu la différence.
Oui, on voit bien, d'ailleurs.
Bon, première colonne, il se passe pas grand-chose.
Première colonne, il les ignore totalement.
Il se toise un peu.
Il se toise un petit peu et le sergent veut jouer son sniper, mais finalement il en est empêché par le lieutenant qui lui dit de toute façon.
Il va vers une mort certaine.
Il va vers une mort certaine. Il va crever dans quelques kilomètres. Quoi. On comprend pas tout de suite pourquoi. Et on croit ensuite qu'il va crever parce que les autres vont le... Alors qu'en fait, je pense qu'il pensait plus au champ de mine qu'au mec qui était en train de réparer leur vieille guimbarde. Et on arrive au premier moment assez sympathique du film, on va pas se mentir. Petite rencontre entre... Ils sont 3, 4...
4, 5. Wehrmacht ou SS
SS, ils ont tous le
casque d'électricien.
Le casque d'électricien et puis sur le col, la signe SS dessus. C'est une partie de régiment de la Waffen-SS pour tous les soldats qui sont présents. Donc des enfants de cœur.
Oui, c'est sympa.
Clairement, on va pas se mentir. Est-ce qu'on parle tout de suite de ce top ou on fait le top à la fin? Je sais pas. Quelle était ton idée?
Moi, c'est mon top 1, c'est super.
Le premier mort?
Oui, bien sûr.
Ah bah moi, il est même pas dans mon top.
D'accord. On en parle maintenant de notre top.
Moi, j'ai.
Mais en fait, non. Ce qu'on peut dire, c'est que première rencontre avec des nazis qui se passe pas quand même pas aussi bien que la deuxième rencontre qui se passe pas aussi bien que la première. Oui, on sent que nos soldats qui sont en train de réparer leur
se sentent leur un peu supérieurs,
se sentent un peu supérieurs, puis ils doivent être un peu énervés de réparer leur truc, et puis ils se disent de toute façon on a tout cramé avant.
Il y a pas de raison qu'on en laisse.
Il y a pas de raison qu'on en laisse un passer. S'il y retourne. Et là, ils l'arrêtent, ils font un peu chier.
C'est la BAC.
Ils font descendre de.
Ouais. Voilà, c'est la BAC.
Ils le font descendre de cheval et ils réalisent que quoi.
Il y en a un qui trouve. Il
transporte de l'or.
Il sort une pépite d'une des sacoches et puis il dit ah putain, il n'y en a pas qu'une quoi.
Et.
Et ils veulent exécuter.
Ils veulent le buter.
Ah, d'abord, ils veulent buter le chien.
Exact.
Le chien, et c'est peut-être pour ça que le réal a finalement été pris sur un film américain.
Le petit John Wick quoi.
Voilà, c'est que. Voilà, le. Le chien survit, donc voilà, ça plaît aux Américains. Ça.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment le côté John Wick.
C'est côté John Wick.
Complètement assumé, en plus.
Le film a été en partie produit par les producteurs de John Wick. Donc, autant te dire qu'on a tout ce...
Oui, oui,
tout ce tient,
télescope.
En fait. Voilà, exact. Et bon, on sent la tension légèrement montée chez notre ami Corpi, quoi.
Mais qui, physiquement, en plus, c'est pas un mec qui en impose, quoi.
Ouais, c'est marrant. Hein,
des
ouais.
Actionneurs des années 80, donc c'est la référence. Il n'est pas dans ce modèle
là. Ouais, puis
il
est, voilà, il est barbe et cheveux blancs, enfin voilà, tu sens le
même. Il est blessé en plus, parce qu'on l'a vu à un moment torse nu.
Quand il se lave dans la rivière et tout, tu vois qu'il est.
Il a pris tout.
Tu vois qu'il a vécu quelques trucs dans sa vie avant. Il y a légèrement quelques cicatrices un peu partout sur le torse, dans le dos, des impacts de balles, bref, voilà. Et il va en rajouter quelques-unes dans les 1h10 qui vont suivre, il n'y a pas de soucis.
Et là, petit moment sympa, les Allemands veulent buter, ils le mettent à genoux de mémoire.
Oui, c'est ça.
Il va pour sortir son petit Luger tranquillou, bien lustré, et... First Blood.
Et Corpi, dans un mouvement...
Rapide.
Efficace. Sort son coutelas.
Joli coutelas, quand même.
Ouais, c'est un bon, ça.
C'est toi, il n'est pas fait pour
couper... C'est une dague...
Non, c'est un nom spécial. C'est une marque, en plus, précise.
Ah,
je l'ai trouvé. T'as
reconnu ça, d'accord, ok.
Non, je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai trouvé la référence.
C'est quoi, en fait, c'est une sorte de couteau de chasseur de...
Ouais, tous ces... Et unité d'élite, là, c'est bien le petit côté de Maurice Orwell. Cette unité d'élite avait toujours les mêmes
ustensiles,
on va dire. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne l'ai pas retrouvé. C'est tant pis. Et en fait, ils avaient une marque très connue finlandaise de
coutellerie.
Ouais, 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 qui existe encore. Mmh. Et c'est avec ça qu'il va lui mettre un petit coup derrière la tête ou dans la tête.
Ah, plein milieu.
Ah, bah, ce qui est mon numéro 1 des morts.
Voilà, son couteau traverse son crâne d'une tempe à l'autre. Hein, voilà, tout simplement.
Moi, je me suis dit, là, le film, il est bien.
Moi, je me souviens quand on était au cinéma ensemble.
Là,
j'avais une demi-molle.
Ah ouais.
Là, cette mort est magnifique. Ouais,
elle sera
est
meilleure
hyper
pour moi.
Graphique. Ah ouais. Et effectivement, moi aussi, c'est mon top 1.
Ah oui, l'argent.
Tu t'attends. Alors, tu le vois quand même avec la main sur le manche du couteau.
Ouais, mais comme ça.
Mais tu t'attends pas à ce que ça arrive comme ça. En fait, c'est barjot.
En plus, c'est pas.
On ne peut pas la décrire parce qu'il faut que les gens le.
Elle est dans la bande-annonce, et effectivement, oui, et c'est la première mort du film.
Moi, je le trouve très simple, d'une efficacité, toute épreuve.
Ouais. C'est presque beau.
Oui, il y a quelque chose de vrai. Wow. Puis sur grand écran, ça fait un petit
peu. Ouais. Oui, parce que comment la tête avec le couteau qui la traverse, ça prend tout l'écran.
Ouais, un vrai tour de magie.
Ce qui est assez fou, c'est que t'as pas de... Enfin, tu passes de la scène où il est à deux doigts de le buter, tu t'arrêtes sur cette image-là, et l'image suivante, t'entends le bruit du couteau qui traverse, tu vois le couteau traverser la tête, et puis,
là, c'est
un hôtel au culte de la barbarie.
Mais alors, les autres, en plus,
sont surpris.
Sont à la fois surpris, atterrés, et ils ont qui même pas leur arme et tout, je sais.
Non, ils ont pas
tout. Ah ouais, ouais. Et en fait le temps qu'il réalise,
lui il prend l'arme.
Lui prend la mitraillette et puis leur règle une partie de leur compte.
Pète 2-3 bras, jambes sur le passage, utilise des nazis comme bouclier au tir d'autres.
Très très bien ça aussi, qui se sert d'un des gars. Ça. Oui, ouais, il va le refaire 2-3 fois.
On sent qu'il est entraîné quand même.
Oui.
C'est pas la première fois qu'il le fait.
Non, clairement pas, il a de l'expérience là-dessus.
Ce qui est marrant, c'est que en fait, t'as la la colonne qui est partie devant, quand il entend les premiers bruits, il se dit, ah bah, c'est bon, ils vont régler son compte. Quand ça continue, tu sens le regard du commandant.
Ouais, du commandant qui.
Ah, il y a un petit cloche.
Parce qu'en fait, sur les premières rafales, en fait, ils ne savent pas qu'ils visent le chien. Donc, ils pensent qu'ils ont réglé le compte au gars, effectivement.
D'ailleurs, on retrouve aussi un fait assez classique des films. C'est que les méchants visent quand même terriblement mal.
Très tout à fait.
Terriblement mal.
Ils ne visent pas les pieds, ils ne visent rien.
Non, ils visent très mal.
Donc toi, t'es pas top 3 dans cette séquence-là.
Parce que moi, il y a d'autres morts qui m'ont fait...
fait kiffer. Moi, je la trouve tellement graphique.
Ah putain, elle est tellement belle. C'est numéro 1.
Parce qu'elle est simple.
Sans parler du côté graphique de la mort qui... Oui, je suis d'accord avec vous, elle est très belle. Mais j'ai trouvé d'autres morts quand même vachement plus inventives.
Ok, d'accord.
Et dans un délire d'un mec qui vient buter des nazis de toutes les manières possibles... Moi, j'ai plus classé dans l'inventivité des
mots. D'accord.
Après, si vous voulez...
J'entends.
Le temps que je retrouve mon top 3 dans toutes mes notes.
Ah, c'est... Tu préfères qu'on y vienne quand on évoquera les autres séquences ou...
Non, comme vous voulez, il n'y a pas de... Comme vous voulez, allez-y, balancez le vôtre et puis votre top 3. Est-ce qu'on le fait par ordre décroissant?
Numéro 1 pour moi, c'est la première mort. Hein, c'est le couteau dans la tête, ouais. La numéro 2, pour moi, c'est sous l'eau, quand il décapite le premier gars.
Oui.
Alors, parce que tu parlais d'inventivité, parce que il lui tranche la gorge, il le décapite, dans le but d'aspirer l'air qu'il a dans les poumons pour pouvoir rester sous l'eau encore. Je trouve ça.
En plus, c'est à ce moment-là où moi au cinéma, parce qu'on était toujours on sait pas trop ce qu'on regarde, quoi. La première manche, je me suis dit, oh là, on va y aller dans du gore, ça va être cool. On va vraiment... Et là, je me dis, voilà, ça y est, ils ont mis les potards à fond, ils n'en ont plus rien à la foutre. Et quand on commence à respirer l'air des poumons du gars par la trachée, je me dis, bon, voilà, là, ils n'en ont plus rien à foutre de la réalité ou quoi que ce soit. Là, on a lâché la rampe. Donc, c'est plus la réaction au cinéma qui fait que je me dis, voilà, ouais, on est bien.
On est parti, là.
On est parti, là. Donc, bon, où ça va aller, quoi.
Ok. Numéro. Numéro 1 pour toi, Thibaut.
Moi, mon numéro 1, c'est la mine dans la tête, quand même.
Moi, c'est un 3, ça. Ouais,
parce que autant que c'est le
3. Et c'est pour ça, tu vois, là, on a pris toutes nos morts préférées, c'est au début du film. C'est pour ça que je trouve que le film s'essouffle un peu après.
J'ai hésité sur le commandant qui tombe avec la bombe aussi. Parce que c'est quand même. Elle est super bien. Enfin, toute la séquence.
Je trouve
qu'elle
est commando, moi. Il y a un commando, il y a ce côté.
Mais j'ai hésité sur le. Comment le. La décapitation avec l'aspiration de l'air ou le commandant là, qui est entraîné par la bombe et qui explose avec elle
le gros fuck qu'il lui fait. Là, c'est un côté gros guignol.
Moi, la mine dans la tête, c'est parce que le couteau, vous me l'aviez dit. J'ai vu la bande-annonce, donc je l'ai vu. La mine dans la tête, après l'explosion.
Personne s'y attend.
Au travers du truc, au travers les mecs du nuage que je chassais. Du coup, t'as la mine qui arrive et le mec, oh merde. Et boum. Ça, bijou. Là, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ça part en couille. Parce qu'autant le couteau dans la tête, toutes les morts,
tu te protèges. Le couteau dans la tête, c'est du gore. Tu dis, ok, on va. Et après, elle part en couille, c'est vrai que la mine, c'est vrai qu'il part en couille.
Ah,
après,
dans la tête, elle est top. Du coup, donc en numéro 2, moi j'ai bien l'égorgé sous l'eau avec respiration dans la trachée. Où là, je me suis dit, ouais, putain, c'est quand même.
C'est quand même
très très fort. C'est que les mecs mettent un petit côté utile à la mort. Et
oui. On a pensé.
On a pensé un peu.
Comment on va rendre utile la chose.
Et puis ça reste aussi le moment où. À part la pendaison qu'on voit plus tard, c'est le moment où tu sens que ça va être compliqué pour lui, quoi. Parce qu'au début, les premiers nazis qui butent, que ce soit dans la première mort ou le champ de mine, c'est pas trop compliqué, il s'en sort plutôt pas mal. Tu te dis, si tout le long du film c'est ça, il va rien se passer. Là, c'est la première fois qu'il est mis en difficulté et elle a ce petit côté.
Bon, évidemment, on laisse de côté on suspend notre incrédulité, évidemment, sur le fait que son plateau à chercheur d'or est ultra blindé, comme un bouclier en vibranium, totalement. Parce que, effectivement, je pense que, surtout avec le calibre 50 qu'il y a sur le char, bon, je pense que son truc, il fait pas. il tient pas 3 secondes, mais bon, voilà, c'est rigolo, c'est rigolo comme tout, parce que c'est en plus, c'est aussi avec les balles traçantes qu'ils mettent, forcément, c'est visuellement aussi, c'est très,
ouais, très cool,
c'est très beau.
Mais tu comprends justement le côté du film où t'as un mec qui est un mec lambda, mais qui est en plus un super-héros, plus lié à l'immortalité.
C'est beau.
Et t'as cette image du bouclier, évidemment, on t'en parle, mais j'y pensais pas, mais c'est très Captain America.
Ah bah, je pense que c'est... il faudrait demander au réal, mais à mon avis, je pense que quand il a scénarisé comme ça, je pense qu'il n'a pas pensé à autre chose qu'à Captain America avec, avec son bouclier. Hein, ça me paraît évident.
Captain America. Qui se bat contre les nazis,
oui, et voilà.
Les mettons là-même. Hein, ouais. Oui, tout à fait.
Et toi, Julien, c'est quoi ta deuxième mort préférée?
Non, j'ai dit la deuxième mort, j'aimais beaucoup la tranche, la trachée, parce que je me suis considéré que c'était à ce moment-là qu'on avait lâché.
On
abandonnait toute réalité, autant la mine, j'aime beaucoup. Et la troisième, la mine, j'aime bien. Et moi, c'est vraiment, c'est le principe.
Vous êtes d'accord sur la première, tous les deux?
Oui,
on est tous les trois d'accord sur la deuxième.
Sur la mine.
Ouais.
À la mine, vous la mettez en deuxième, et vous en troisième,
Pardon, oui, moi je mettrais la mine en deuxième et la décapitation oxygène en trois.
D'accord. Et toi, j'ai changé. La pioche par-dessus le truc pour sortir le mec qui finit par se faire écraser par le temps.
Lui aussi.
Parce qu'on voit beaucoup la pioche.
La pioche
dans le truc.
La pioche
et le coup où il est au-dessus,
elle sert enfin
la pioche, il la sort.
C'est vrai qu'elle est chouette la pioche.
Il y a le temps qui passe et il y a les mecs en moto derrière qui font.
Mais c'est pas des nôtres. C'est un moment comique.
Et comique de répétition, il se pose la question deux fois. La deuxième fois,
c'est pas Yen.
C'est pas Yen.
Et ça tranche avec le reste du film, ça qui est
totalement.
C'est bizarre. C'est ça que le film, des fois, il est déroutant pour ça. Hein. C'est le moment où il tranche dans son rythme.
Il y en a quand même une que j'ai bien aimée aussi. Elle est pas spectaculaire, mais le bruit que ça fait. J'ai re-regardé le film. J'avais regardé le film il y a une semaine, tu vois.
Oh, je pense avoir
et je l'ai regardé hier soir, tu vois, pour bien le garder en tête. Et c'est quand il bute l'aviateur.
Oh putain, et la tête qui
tape. Et la tête qui tape le caillou, la pierre par terre. Et ça fait un jeton. Qui est tellement drôle. Putain, un bruit sourd. C'est comme ça. Et le mec, il s'en relève pas parce qu'il il se prend en fait un chassé, là, et il tombe,
manque de bol,
tête en avant,
sur
une pierre ou une brique. Enfin, et le bruit que ça fait, c'est tellement drôle. Donc voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Un petit coup de cœur pour celle-là aussi.
Et donc maintenant qu'on a fait notre...
que les gens connaissent toutes les morts, sympa. Revenons à l'histoire. On a quand même... Après le coup de la mine, pareil, la suspension d'incrédulité est obligée de rester présente parce que
ils ont fait
on a un nuage de.
On n'a pas dit qu'ils
bougeaient. Oui, ils ont fait demi-tour.
Ils ont fait demi-tour pour venir le chercher. Quoi.
Oui. Et on a
surtout quand ils, en fait, ce qu'ils font, ils font demi-tour pour voir ce qui se passe.
Oui.
Avec leurs potes, ils voient qu'ils sont tous morts. Là, ils se disent, au pire, on s'en branle. Et là, ils tombent sur une pépite d'or qui est restée au sol. Et là, tu reviens sur le côté terre brûlée. On pille, on saccage. De se dire, on va quand même pas se barrer juste comme ça. Il y a un mec.
Ouais, non.
Allons le buter,
récupérons. Et aussi parce qu'ils ont conscience qu'ils perdent la guerre. Qu'ils vont perdre la guerre. Et qu'ils vont se retrouver jugés au
bout de ça. Il le dit à un moment.
Et qu'ils se retrouveront sans rien. Ils vont se retrouver à poil après la guerre. Donc il leur faut un petit matelas. Et s'ils ont de l'argent.
Clairement,
ils anticipent le fait de leur défaite.
C'est à ça qu'ils pensent. C'est-à-dire que les 20 kilos d'or qu'il va choper vont lui permettre de partir ailleurs.
En Argentine.
Éventuellement. et de refaire sa vie comme un prince là-bas. C'est évident. et donc, oui, notre ami Corpi, oui, se fait avoir par le champ de mine, en fait. Son cheval... cette scène aussi est incroyable. Quand on la surprise quand tu la vois la première fois, où t'as le cheval qui explose, le truc qui part en couille, et lui qui se relève, putain, il se relève, il est au milieu des entrailles du canasson et tout. Ah, il y a une certaine tristesse, parce qu'à priori, le cheval qu'il avait devait être un peu comme son clébard, ça devait être une partie de sa vie, quoi. Et les mecs, en fait, arrivent au moment où lui ramasse toutes ces pépites qui traînent partout. Et c'est là où, suspension d'incrédulité, où il prend un caillou pour exploser une mine qui, auparavant, ne l'avait pas fait. Non. Et là, te pète un nuage de poussière qui met facilement 5 bonnes minutes à se dissiper.
Côté western.
Pour les besoins western du truc.
Côté western, clairement, ouais. Total, quoi. Mm-hmm. Le mec qui sort de la fumée comme ça.
Oui, mais c'est là où la mort par la mine, en fait, la mine sort du... quand il envoie le soldat tout seul, là, et la mine lui arrive en pleine gueule, et il la voit que...
Au panneau contact, quoi. En même temps, les films des spaghettis de Dexter Joleon, j'ai à réfléchir à... Parce que ce plan-là, on l'a déjà vu dans la trilogie du dollar, après on l'a déjà vu.
Ah oui.
Tu auras à réfléchir auquel, peut-être,
avec
le mot, la beauté de truand.
Avec un bâton dynamique qui arriverait
à la place,
comme ça.
Ou un coup de pelle aussi.
Oui.
C'est des trucs qu'on a déjà vu. Mm-hmm. C'est excellent.
Et c'est d'ailleurs là qu'on comprend que le colonel nazi, ces petits soldats qui ramène à l'extérieur de la Finlande, il n'en a plus rien à branler.
Pas vraiment, puisqu'il en sacrifie, il en sacrifie un, plus deux.
Un, le premier qui va tranquillement voir ce qui se passe, la peur au ventre quand même, parce qu'il a compris qu'il n'était pas face à n'importe qui, et qui reçoit justement cette mine qui arrive, il est dans le champ de la plus belle mort pour moi, mais il arrive dans le champ, dans la zone un peu brumeuse. Et à ce moment-là, il y a un objet qui lui arrive sur la gueule. Il lève les yeux, il comprend que c'est trop tard, que c'est une mine, et il explose avec des boules. Enfin, ça c'est magnifique, cette espèce de petit feu d'artifice
Quand le commandant envoie les deux suivants après sur les côtés, pareil, putain, quand ils se font péter sur des mines, t'as des morceaux de jambes qui volent, qui atterrissent comme des merdes par terre et tout. C'est assez bien fait quand même, mentir.
On est au tout début du film en fait.
Ah oui, on est à 20, un quart d'heure, 20 minutes.
Et il y a déjà 7 000 nazis qui sont morts.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je me dis que le tout début du film, il t'embarque dans le truc en fait. On part d'un truc western, après ça part dans un délire, on va buter les mecs à l'arme blanche, après on arrive sur des actions, des gunfights. Et ça t'embarque vachement, et c'est pour ça que moi j'ai bien trippé au cinéma sur le grand écran d'avoir tout ça, c'était très, très chouette quoi.
Oui, parce qu'effectivement, quand t'es à ce moment-là du film, donc au bout de 20 minutes, une bonne vingtaine de minutes, tu te dis que tu vas pouvoir ressortir de là avec un petit bouquin sur le mille et une façons de tuer un nazi.
Sont d'ailleurs les meilleurs méchants de tous les temps au cinéma.
On ne le répétera jamais assez, qui sont évidemment les meilleurs méchants du cinéma, et les meilleurs méchants à tuer ou à voir mourir. Et donc le film nous entraîne sur la séquence suivante en fait, où une distorsion je pense d'espace et de temps à ce moment-là, puisque lui s'est barré, parce que effectivement le nuage de poussière de fumée n'est toujours pas réussi à retomber, et donc lui a réussi à se barrer pour finalement arriver quelques centaines de mètres ou kilomètres plus loin sur une épave de camion quoi en fait donc on peut penser que les nazis étaient passés par là quelques heures auparavant et que c'était comme c'était encore fumant et tout que c'était probablement une de leurs exactions quoi.
Et décide de se reposer un peu parce que ça l'a fatigué quand même.
Mais parce qu'il a pris quelques bastos quand même bastos. puisque il se avec un couteau parfaitement propre, il s'enlève une balle de la cuisse, je crois. Il est blessé à l'épaule aussi. Enfin bref. Donc un peu de repos.
C'est pour quand là qu'il va se recoudre.
Un peu de repos pour lui. Non, il se recoue au moment de l'avion.
Et pendant ce temps-là, les nazis.
Pendant ce temps-là, le commandant, il l'a quand même un peu vénère d'avoir des hommes qui sont morts. Alors bon, il considère que c'est lui qui a tué ces hommes, mais il n'est pas trop introspectif par rapport à sa propre responsabilité. On va dire que ce n'est pas ça qui le caractérise le plus, le commandant nazi. Et puis surtout, quand il a vu la quantité d'or à récupérer, ses ordres et sa mission de retraite vers la Norvège changent du tout au tout, hein, tout simplement. et il décide
de le rattraper,
de partir en quête.
Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qui, en passant dans les débris de cadavres et autres, tombe sur la médaille,
oui,
de notre ami Corpi, la médaille de soldat.
Ça sent là.
Ah ouais. À côté de trouve, tu sais, la médaille en deux parties qui permet d'identifier, d'identifier le soldat.
Et donc, il demande à son état-major de se renseigner
sur qui est le soldat matricule
Tartempion. Chose à laquelle ils ont une réponse, c'est une machine de guerre. C'est
Dangerous Baby, faites demi-tour.
Voilà. Et c'est un peu, tu vois, ça m'a rappelé ce moment que t'as dans un film avec notre ami Steven Seagal. Alors, la tirade n'est pas aussi longue, même.
Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier.
C'est un peu la Corpi. Pour se justifier, le commandant t'as dit au général qu'il avait quand même buté 7 de nos mecs, et oui, et il a dit qu'on avait eu de la chance. Ce qui, selon toute personne dotée d'un instinct de préservation classique, normalement doit inciter à lâcher l'affaire, mais bon, bah voilà, devant 20 ou 30 kilos d'or, bah effectivement tu...
Sachant que normalement, ils ont l'armée finlandaise.
Au cul.
Mm-hmm. Bon, qui était pas... véhiculé, quoi.
Oui.
C'est une armée qui est un peu à l'arrache, soit à pied, soit à cheval, comme ça. Donc c'est pas. Mais bon, normalement, tu fais demi-tour et tu te barres, tu vas en Norvège.
Voilà. Le fait de rebrousser chemin, ils vont normalement se retrouver normalement nez à nez avec.
Qui plus est, à travers le champ de mine.
Tout à fait.
Ce qui nous montre aussi à ce moment-là que notre ami colonel SS n'a pas vraiment de scrupules à prendre deux prostituées au glyphe. Pour les attacher à une corde et les faire marcher dans le champ de mine devant le char.
Bah oui, parce que pourquoi pas?
Parce que ce serait quand même con de se priver. Et là, on arrive à la fameuse scène où notre ami Corpi est. Fait un petit dodo tranquille.
Et
que les nazis arrivent.
Et il entend à peine arriver le char, les camions, la moto. C'est presque les aboiements des bergers allemands qui le réveillent, en fait.
Parce qu'il y a son chien qui doit aboyer aussi.
Non, son chien, il l'a lâché. Avant le champ de mine. Pour lui dire, écoute, mon grand, vas-y.
Vis ta vie.
Et c'est là qu'ils essayent de lui tirer dessus.
Et alors, toi, si tu t'es dit, dans la scène qui allait suivre un petit peu, de quelques minutes plus tard, dans le lac, je tranche la gorge et donc je récupère l'oxygène, l'air qui vient des poumons du gars. Là, je pense qu'ils ont abandonné toute crédibilité. Que penser de la chute? Que penser du fait de... Que pour empêcher les chiens de respirer ton odeur, t'asperger d'essence et d'abord
de courage.
Une bonne idée, ça réclame un certain courage.
Ça ne brûle que dans le dos.
Voilà, de courir au milieu d'un champ à la merci des fusils des gars, sans ton nuage de
fumée
pour te protéger. Et qu'au moment où le berger allemand arrive pour te bouffer les mollets, tu te dis, tiens,
si je craque 2-3 années.
C'est vrai que là, on n'a pas
abandonné
aucune idée de trucs totalement crédibles.
J'ai envie, en plus, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est complètement con. Et son petit saut en plus dans le...
Bon, alors, normalement, en plus, comme l'essence lui est arrivée sur le torse, c'est
tout.
Normalement, voilà, et puis avec la barbe, les cheveux qu'il a, normalement. Bon, et en fait, quand il court pour aller se jeter dans le lac, bon, on voit qu'il n'y a que le dos qui est en feu et tout. Enfin, bon. Voilà, notre incrédulité est suspendue à ce moment-là. C'est pas grave, là. la scène est belle, voilà, elle est bien filmée, il y a une jolie photo, voilà.
Les chiens sont demi-tour, quoi,
se battre. Le chien a peur du... Le chien, en fait, se calme parce qu'il a peur du mec qui s'enflamme, quoi.
Ça a marché.
Ça a marché. Mais oui.
Dodgeny.
Il avait tout prévu.
Mais non, c'est là qu'il improvise. Il passe en roulant sous le camion. Il s'accroche au camion. Les mecs avancent. Les chiens le sentent toujours. Et là, il prend son couteau. Il fait un trou dans le réservoir. Il va perger d'essence.
Et puis personne l'a vu passer sous le camion. Non. C'est pas comme si t'avais un mètre de haut entre
le... Les mecs, il y a de l'essence qui coule du camion à grandes eaux. Et puis ils se disent, tiens, ça sent l'essence.
Ça sent l'essence, oui.
Oh, mais c'est pas le fait de sentir l'essence, c'est que les chiens s'arrêtent.
Oui.
Les mecs regardent.
Ils ont perdu la trace.
Et là, ils se disent pas, tiens, ils pourraient être sous le camion.
Oui.
Non, ils attendent qu'ils sortent.
Après, ils savent pas qu'il est là.
Oh, ils savent qu'il est là. Les chiens l'ont senti.
Ouais. C'est des détails, là.
Je pense que Julien abandonne toute crédibilité au moment où il y a la mine qui traverse la fumée et qui pète sur la gueule du type. Et c'est un peu plus tard, 2-3 scènes après, qu'il fait « Ah ouais, quand même, on a franchi un cap, là. »
C'est un peu too much, quoi.
Oh merde, autant balancer des mines à la gueule des types. Ça se perdait d'essence, why not. Mais c'est comme se cramer avec une allumette. Mais... couper la trachée d'un type pour respirer l'oxygène, ça, je n'y crois pas.
Les gars, vous m'avez perdu. Là, en plus, ils sautent dans le lac. De souvenir, il y a une musique, genre les musiques du Valhalla, quoi. Tu sais, les musiques que tu entends dans Viking, un truc comme ça, un truc un peu... je sais pas comment ça s'appelle.
En plus, ils sautent avec son chargement d'or.
Tout habillé, quoi.
Tout habillé avec le chargement.
Il tombe à pic, le coup.
Et là non plus. Julien, il s'est pas dit, non, on perd toute crédibilité, le mec, il plonge. Non, il a attendu.
Mais non, mais quand j'y crois encore. Hein. Avec les mecs qui sont au bord, c'est-à-dire qu'il va remonter de toute façon.
Oui. Il a beau être immortel, il faut qu'il respire. Immortel ou pas, il doit respirer. C'est ce que dit le commandant. Il a beau être immortel, il faut quand même qu'il respire. Et quoi de mieux pour respirer que d'aller voler l'air des poumons des autres.
Ce qui est sympa, c'est la tête des mecs quand ils leur proposent d'aller... d'aller se baigner dans le lac pour aller chercher le... Tu sens la détresse et l'envie d'aller se baigner.
Oui, le petit doigt. Tu plonges.
C'est quand même la deuxième fois qu'il sacrifie des hommes à lui pour...
Ah oui, mais de toute façon, comme disait Julien, si à ce moment-là, on sent que le réalisateur n'a plus aucune ambition, qu'il n'en a plus rien à foutre, le commandant, je pense qu'il est pareil. Il n'en a plus rien à foutre non plus de ses hommes. C'est d'ailleurs bizarre qu'il n'y en ait aucun qui l'ait grillé à ce moment-là en disant « Mais en fait, ce mec, il n'en a plus rien à foutre de nous et... »
Bah, ouais, après, ils savent qu'ils vont se faire buter s'ils résistent, quoi. Donc,
Bah, comme le dernier qui se barre en canoë, d'ailleurs, hein, qui...
Ah oui, j'avais oublié ça. Le mec qui part... Il part vraiment, je me suis posé la question.
Oui,
il part vraiment, ou c'est l'autre qui
Non, il commence à ramer pour aller sur l'autre rive... Et le commandant qui lui dit si tu te barres, si tu t'avances encore, je te descends.
D'ailleurs, ce sera le seul coup du sniper quasiment de tout le film.
Oui.
Je crois que c'est la seule fois où il va viser juste de tout le film.
Sacré sniper.
Sniper pas efficace du monde.
Jack Doolan, pas mal.
Qui bute son soldat, qui sert une nouvelle fois
de bouclier.
De bouclier.
Oui, parce que là, l'autre, comme il sent qu'il est un peu limité sur le fusil à lunettes, il remonte sur son char pour y aller au calibre 50, c'est ce qui est quand même...
Et encore loupé.
Un peu plus efficace. Ouais, et puis, à part cribler de balles...
Il était où, notre héros, là-dedans là?
Il était sous l'eau.
J'ai eu un doute, un moment, en fait, de savoir. Il était sous l'eau.
Ouais, il
remonte, il reprend sous le cadavre, et ils
en
servent comme...
Après, il en fait deux. Il y a deux mecs qui plongent dans l'eau et les deux...
Oui, ils arrivent d'accord, mais quand l'autre, il rame...
Et ben, en fait, quand l'autre rame, il se fait buter par le sniper. Lui, à un moment, on le voit, en fait, il vient juste au bord de la flotte. Il se met derrière le canoë et puis il ramène le canoë sur le bord de la rive là, pour prendre le cadavre sur ses épaules. Parce qu'il sait que ça va avoiner, quoi. Et une fois qu'il s'est enfui, il parcourt la lande pour arriver jusqu'à une station totale
où il décide que c'est peut-être le moment de se soigner.
À base de fils de fer.
Ah, c'est après. Il s'endort.
C'est ça, ouais, ok.
Il fait sa petite sieste. Et en fait, il est réveillé à un moment en pleine nuit et il entend son clébard, en fait. Et le clébard arrive.
Ouais, qui est revenu, ouais.
Avec avec un bâton de dynamite attaché à lui. Et c'est là qu'il il enlève le bâton de dynamite et le temps de le lancer, le stick explose à quelques mètres de lui.
D'ailleurs, un bâton de dynamite qui a une mèche très longue parce que.
Le chien arrive et tout.
Parce que c'est les Allemands qui récupèrent le chien,
oui.
Qui lui accroche dessus, qui l'envoie, le chien arrive, il fait des câlins, il fait oh, mais t'as un bâton de dynamite.
Oh, mais dis donc.
Là, t'es plus à ça près.
Ah non, on est plus à ça près. Bah, de toute façon, on a égorgé des mecs pour respirer dans leur larmes.
Et donc, assommé par le souffle du truc, il se fait capturer. Alors, bizarrement, les Allemands sont juste en effectif réduit. Il y a le pilote du char, le sniper et.
Hein?
Non, il y a encore
toute la garnison.
Il y a le camion où il y a les gonzesses, il y a le camion qui transporte les autres gars et le sidecar. Sur cette scène-là, ils sont pas là. Alors peut-être qu'ils ont juste utilisé le clébard pour tracer le gars et donc ils sont pas arrivés tambour battant et tout. Et donc ils sont effectivement que trois pour pendre le gars et pense-t-il se débarrasser de lui. Mais c'était mal connaître notre ami. Voilà.
Scène qui me fait vraiment penser à Il était une fois dans l'Ouest.
Ouais.
La pendaison, l'homme à l'harmonica, pareil. Mmh. Et puis aussi dans Le Bon, la Brute et le Truand, quoi. Il pense exactement des scènes sous un arche et tout. Mmh. Ça fait vraiment penser à ça, toi, ce côté western.
Là, bah, oui.
Clairement penser à ça avec la botte, le gros plan sur la botte qui vient
essayer de choper le clou d'abord pour et tout. Oui, non mais j'ai pas trouvé d'interview du réalisateur, ouais. Mais c'est quand tu vois c'est obligé en fait qu'il ait rendu son hommage à ces films là quoi,
comme c'est un peu avant, mais toi quand Corpi il voit, c'est vraiment au début, il voit les chars arriver au tout début, ils sortent de la fumée, avec une musique, justement, bah, c'est une musique un peu... Bah, là, bon,
oui, oui.
Ça fait penser à John Wick, tous ces mecs qui sont sur les chars à fond avec la guitare, il y avait cette ambiance un peu... John Wick, Mad Max
Fury Road, oui.
Pense à Mad Max Fury Road, cette ambiance-là, quoi.
Et de toute façon...
C'est vraiment, on est là-dedans, quoi.
Cette scène à laquelle tu fais référence, quand le char débarque et qu'il sort de la fumée... Ouais. Et t'as les deux camions derrière qui viennent de chaque côté. C'est western en fait. C'est l'arrivée à la gare dont Il était une fois dans l'Ouest, avec les trois mecs en trench coat.
Les cache-poussière. Ouais.
Ouais, c'est totalement ça quoi.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y a aucune raison que les deux camions viennent sur les côtés. Oui, bah, voilà, c'est à part faire cette arrivée.
Oui, c'est pas des chevaux, c'est
du western. Ouais, voilà, ouais. C'est totalement ça. C'est clair.
C'est pour ça que la scène de la pendaison, c'est clairement une référence au western spaghetti de Sergio Leone, sauf que là tu vas rajouter du gore avec
un petit peu de
se soulager, il vient se mettre le pied dans un
petit peu de body porn, voilà, où il où il est blessé, où il a pris une bastos, il vient enfoncer sa jambe avec le clou pour se garder en hauteur.
Avec le
bruit.
Ouais, ouais. À ce moment-là, moi je me suis dit, il a combien de litres de sang, ce mec?
Ouais, ouais.
Déjà, il en a perdu plein.
Il a plus que Thomas.
Au moins, ça revient.
Quand ça revient, après, tu vois du sang, mais partout.
Ouais, ouais. Sur la botte et tout, qui coule de. Ouais, non, mais c'est. Non, mais comme dit Jules, on a laissé au vestiaire toute tentative de crédibilité là-dessus, c'est évident. C'est un avion qui va venir le sauver.
Qui le réveille.
Putain, un avion qui l'arrive.
Qui le réveille, mais c'est pas le fait que l'avion passe une première fois qui va faire un petit peu... Ça fait trembler le panneau en métal là, qui est suspendu à la potence, en fait, et qui va commencer à arracher les vis et tout, et qui va commencer à faire glisser la corde. Ouais. Voilà. Juste que, bon, ensuite, il faut le temps que l'avion se pose, hein, quand même, que les mecs essaient de trouver un peu de gasoline, quoi. Et puis, la corde va glisser, puis finalement, il va se retrouver vautré par terre et tout. tu peux être pendu toute une nuit.
Bah, du moins, tu as le bon clou, tu arrives à te reposer. Ça va.
Ouais. Un clou salvateur ouais, qui va faire que Corpi va pas mourir. Quoi.
Parce que Corpi ne meurt pas.
Il refuse.
Il refuse la mort, c'est Sissou.
Il simply refuse to die.
Et là, là t'as une mort que t'es.
Ah, bah une mort, ouais, qui m'a fait rire, quoi. Parce que.
Un des aviateurs découvre qu'il est encore vivant.
Voilà.
Je veux le. Chasser, tête sur un parfum.
Je veux lui mettre une bastos, et puis il prend une chasse et se. se frappe la gueule sur une pierre ou un parpaing et crève direct. Et l'autre qui demande, effectivement, ce qui est tout à fait logique, bah, bute-le, et puis bute le chien aussi, tant qu'à faire.
Ah, parce
qu'il casse les couilles, quoi, à japper, là. Et comment le deuxième aviateur, comment il le pécho? Ah, si, il arrive par derrière, il lui met un grand coup de brique dans la gueule.
C'est comme ça qu'il le
voit. Ouais. En fait, le mec arrive, il voit son pote mort, et il se demande ce qui s'est passé, et à ce moment-là, il sent un truc derrière lui, il se retourne. Et il prend un énorme parpaing dans la gueule. Et donc c'est là où à la scène suivante,
ah oui, oui,
Corpi est juste en calbute, en train de tordre du fil de fer pour se faire un crochet pour se recoudre.
Avant, il se vide aussi de toutes les plaques qu'il a.
Ah oui, il enlève tous les morceaux de shrapnel. Tous les bouts de shrapnel, ouais.
Devant le nazi qui est accroché. Qui est en train de se dire, c'est qui ce type
qui n'y croit absolument pas ce qu'il fout. Le jeu d'acteur est fantastique. Le mec, il est juste horrifié de ce qu'il est en train de voir. L'autre à la tenaille. Il est en train de s'enlever des morceaux.
Ça tombe à des bruits.
Ça tombe dans son écuelle. Un ramasseur d'or, elle est toujours là.
La dernière fois que t'as pleuré, t'as sur les yeux et t'en vas.
Putain, ce film. C'est génial. fondu au noir. Le jour d'école, on sait pas ce qui s'est passé. Pardon, mais c'est drôle. Bref.
Et donc, fondu au noir.
Fondu au noir, l'avion d'école. Et on retrouve notre colonnade.
Non, la petite colonne qui se balade. Là.
Qui se balade, qui a retrouvé des paysages avec un peu plus de verdure, des arbres, des forêts, tout ça.
On se rapproche des lacs.
Ouais.
Et il tombe sur l'avion.
Il tombe sur l'avion.
Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé.
Si, moi je pense.
Il a une idée, il se dit,
tu verras jamais l'action. Tu ne verras pas piloter, tu ne verras pas s'écraser, tu ne verras pas.
Ah ben je pense qu'il ne pilote pas, donc je pense qu'il a obligé l'autre à piloter en le tenant.
Oui, parce qu'après, il dit c'est notre
pilote. Et puis au moment où il fait s'écraser, parce que je pense qu'il fait s'écraser l'avion pour que l'avion
bloque le passage.
Occupe toute la route. Et dans le crash, je pense qu'il a tiré la corde pour que le mec soit étranglé, quoi.
Sans doute c'était une belle mort, quoi.
Probablement une belle mort. Et donc les nazis arrivent, voient le truc, et puis plutôt que de le contourner et de passer leur chemin, ils se demandent ce qui se passe. Donc ils vont inspecter l'épave.
Pas bête.
Voilà. Et le sergent se rend compte que c'est sa corde. Il reconnaît le nœud qu'il a fait. Et les mecs se disent, putain, il est encore vivant. Et c'est là que pour presque la première fois, en fait, les femmes entrent en scène, en fait. Parce que un des soldats revient à l'arrière du camion où elles sont séquestrées. Et il raconte à son pote ce qu'il a vu, ce qui s'est passé.
Nous expliquer le concept de Sissou.
Voilà, exactement. Et se met aussi à expliquer la légende qui est ce mec-là. Elle n'est pas morte de rire, mais elle a quand même un bon petit sourire aux lèvres parce qu'elle sent que le vent commence à tourner et qu'elle et ses copines vont peut-être vont peut-être pouvoir s'en tirer de cette histoire. Et le convoi reprend sa route. Et là, bah, notre corpi, effectivement, c'était caché qu'il a fait d'ailleurs pendant tout le film. Hein.
J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Il est souvent planqué comme garçon.
Et puis il fait souvent du steak haché aussi, oui, avec les nazis, quoi. On va pas se mentir.
Et c'est là qu'il y a la.
Et c'est là qu'il y a une super belle mort, effectivement.
C'est vrai que c'est
une
belle mort. Pioche,
voilà, la pioche sert
en chemin.
La pioche sert enfin à tuer quelqu'un.
Une mort en trois bandes.
Oui, mais totalement. Alors le premier crève complètement par surprise.
Tu es par surprise. Le deuxième se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe?
Le deuxième se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les rideaux.
Tête pioche.
Effectivement. Elle est très graphique aussi, celle-là. Elle est chouette, franchement, celle-là. Est... Bon, et comme dit, tête pioche, sol, char. Alors, dans le char, Personne n'a vu la scène se passer.
Non.
Hein, évidemment.
Mais ils avancent, ils s'en branlent.
Hein. Oui, ils avancent, ils s'en branlent. Le pilote, en fait, oui, a pas vu le truc. Et puis,
le sidecar.
Le sidecar, quand même, se dit est-ce que ce serait pas un des nôtres? Mais pas plus inquiet que ça, en fait. Il faut qu'ils attendent. Le deuxième.
Ah, il y a la mort aussi du mec qui conduit le camion des meufs. Où Corpi est au-dessus du toit, c'est qu'il y a le gars, il plante un couteau,
oui.
Il loupe, il plante un petit moment de dichotomie, il plante de l'autre côté, il est pas là, il plante au milieu, paf, la tête,
oui, le crâne, c'est là, il belle. Ouais. Il le fout dehors,
et le
char repasse dessus, et...
Ce serait pas Jens,
effectivement.
Et donc la dada prend le volant à ce moment-là.
Et là, putain, moment d'ingéniosité. Il lui demande de freiner, le tank est derrière, le truc freine, le tank se rapproche, le canon rentre.
Énorme métaphore sexuelle. Si on considère que le camion était l'hébergement des femmes, je pense que voilà, on a quand même une belle métaphore de pénétration.
Ouais, ouais.
Puis le camion repart. Et là, bah, évidemment, notre ami Sissou avait tout prévu.
Notre ami Corpi est passé sur le char.
Les mecs n'ont rien vu.
Mais auparavant, il avait quand même laissé un paquet d'armes,
oui,
aux gonzesses.
Ça,
elles viennent d'où?
Elles devaient dans le camion. Dans le truc.
Mais ouais, mais non, parce autant, qu'il monte à l'arrière du camion, il donne le premier fusil mitrailleur aux filles. Et puis il se retourne et puis il montre en fait que sur son épaule il en a 4-5 autres. Bon.
Ok. Il avait été les prendre.
Genre vous inquiétez pas les filles, je suis armé.
Voilà. Et c'est pour vous parce que effectivement elles vont se faire un petit. Elles vont se faire un petit carton derrière. Et là encore de toute façon ils ont décidé de le faire pour toutes les séquences de gunfight en fait avec des balles traçantes. Effectivement, c'est très visuel en fait.
Ouais,
hyper bien. Donc, les 8 ou 10 mecs qui sont arrière se font doubler par l'autre camion. Ils se demandent même pas de quoi. Les mecs ne bougent pas, ils sont juste en train de se siffler de la vodka au calme. Et puis, c'est les 8 morts les plus cons du film, hein, parce que les mecs ne bougent pas et puis ils se font.
Quel but? Le camion s'arrête, les filles s'arrêtent, ouvrent la bâche.
Non, c'est en roulant. La conductrice bute le conducteur après.
Son dernier.
Ouais, c'est la dernière. Et le camion sort de la route, en fait. Et le conducteur du char, ils sont tous morts. Et puis le commandant, vas-y.
On te balèque.
Le commandant, il a compris, mais non, il faut.
Ah bah oui, il y en a. Ça lui rend presque même service, en fait. Il en a rien à battre. Et puis, Corpi, là-dessus, lui... il est sur le char.
Il se bat.
Et non, il toque à la porte d'abord avec sa pioche.
Ce gros bœuf qui est en train d'essayer d'ouvrir le truc. Et tu te demandes même pourquoi les autres, ils essaient d'aller chercher.
Oui. Mais quel est l'intérêt de sortir du char? Mais ouais.
L'autre, il est avec sa pioche.
Quel est l'intérêt de sortir du char?
C'est début, on va aller chercher.
Bah, le sergent sort du char, quand même. Ouais, parce que son commandant lui a un peu donné l'ordre de le faire, quoi. Bah, ils se battent, ils tombent.
Vu par le périscope.
Oui, qui dit vu périscope. Hommage à Indiana Jones et la dernière croisade.
Exact. Un film référencé, dis donc.
Ah bah oui, attends. Et le char se barre, et puis les deux sont en train de se bastonner jusqu'à ce que le sergent rende un peu les armes. Et c'est le moment où le sidecar décide d'arriver.
Qui devait être sacrément loin. Parce
oui,
que
oui.
En fait, ils ont dû peut-être s'arrêter, faire demi-tour, aller vérifier que c'était Jens ou pas.
Peut-être aussi.
Qui était totalement
écrabouillé. Par acquis de conscience.
On ne reconnaît pas trop.
Ils sont derrière depuis le début, ils ont vu les canons se faire tout.
Mais rien à foutre. Alors que le mec, il a une MG42 sur son sidecar.
Ouais.
Et ils arrivent devant Corpi. Les mecs, même pas ils branchent. Et l'autre, je balance mon flingue, je sors du 5-4 et je me barre.
Il leur tend aussi la pioche véreuse. Ah oui, vous êtes les prochains. Oui.
C'est
pour là, hop, petit coup de fil.
Alors que les mecs, ils ont une MG, ils ont tout ce qu'il faut pour le buter.
Oh, peut-être pas y aller, le mec est peut-être effectivement immortel et se barre.
Ouais. Bah, l'autre, il le laisse tel quel sur le sol, il a réclamé, mais évidemment, c'est chié dessus, il a réclamé pitié. Lui, il prend le sidecar pour courser le char. Le sergent qui pensait s'en être tiré à bon compte voit débarquer les six nanas. Pourquoi est-ce qu'elles ont laissé tomber leur camion? On ne saura jamais.
Pourquoi elles sont derrière alors qu'elles étaient devant?
Oui, non mais...
Bon après, de toute façon, depuis qu'il a respiré dans le larynx des mecs...
Oui, on s'en fout.
On s'en fout. Et donc...
Peut-être qu'il y aura un directeur Scott, on attend.
Moi, je m'attendais, quand on l'avait vu au cinéma, je m'attendais à ce que les gonzesses, le sergent, elles le maravent comme pas permis. Mm-hmm. Et en fait, non, elles vont s'en servir comme trophée de guerre un petit peu plus tard.
Mm-hmm. Voilà, tout à fait.
Et Corpi ne réussit pas à rattraper le char, parce que les mecs arrivent pour choper...
Un rendez-vous avec un ami russe.
Un ami russe qui va les...
Ils sont doux.
Ouais.
Pareil.
Mais oui, parce que en fait, leur retraite à cet endroit-là n'était pas du tout prévue.
Sont en marche arrière depuis le début.
Oui, voilà. Comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour donner un rendez-vous?
Ils ont un rendez-vous parce qu'ils l'encerclent sur la carte.
Oui, oui. On peut penser effectivement qu'ils ont essayé d'appeler, machin, etc. Enfin, c'est cette histoire n'est pas.
Ça doit être prévu tout ça. Je pense que c'est carré comme plan.
Cette histoire n'est pas très claire, effectivement. Pourquoi un russe dans un avion manifestement russe, puisqu'il a une étoile rouge sur l'empennage. Bon. Il décolle, ils s'en vont. Non, sans avoir pris le soin quand même de liquider les derniers actifs, hein, puisque le conducteur, le pilote du char n'était pas vraiment prévu dans la balade. Hein,
S'il avait survécu, c'était chance ou quoi pour le buter, pour être sûr.
Donc voilà, peut-être la mort la plus facile. Et l'avion décolle.
Alors que Corpi arrive.
Alors que Corpi arrive.
En face to face
avec son sidecar et sa pioche.
Effectivement. C'est flingue d'abord parce qu'il canarde quand même pas mal l'avion.
Je pensais qu'il aurait buté. Je me suis dit, il aurait buté.
Ouais.
Il dort même pas.
Non, puis il le fait qu'avec sa mitrailleuse, il y va même pas avec la grosse sulfateuse qui est sur le côté et tout. Dans un acte désespéré, il brandit sa pioche pour, pense-t-on, s'accrocher à l'avion. En tout cas, pense-t-on, côté nazi, s'accrocher à l'avion. Mais non, le pilote est rassurant. Non, t'inquiète, il est toujours en bas. Mais même sans ce plan de la moto qui finit de rouler toute seule... On savait.
Nous sachions
qu'il allait monter dans l'avion d'une manière ou d'une autre. Et là, je me souviens, vu au Cinoche.
Ah bon?
T'es là. Ouais, j'étais mort de rire, comme d'hab. Et toi, t'étais là. Oh non, non, ça c'est pas possible.
j'aurais tout accepté jusque-là.
T'as eu un accès de lucidité en disant. Oh non, là quand même. Ah non, là c'est pas possible.
Là, il y avait le petit côté commando en plus.
Oui.
C'est le gars qui est dans l'avion et qui va sauter de l'avion dans le commando. Là, j'avais cette impression. Alors, l'inverse, là, c'est il monte. Mais j'avais ce côté un peu
Schwarzy attaché.
Ah, bah oui. Il monte, il s'est accroché à l'avion. L'avion décolle.
Oui.
Il est même pas devant un truc où il peut rentrer.
Non. Et la pioche commence à glisser et tout.
Il rattrape
l'avion en remettant un coup de pioche sur le train arrière, en fait.
La base.
Après, il arrive à creuser un trou, les mecs dans l'avion se disent...
Au début, ils n'entendent pas, enfin, ils entendent un bruit bizarre, et puis finalement, quand la pioche commence à percer le plancher, là, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas bien, quand même.
On a perdu Thomas pour la troisième fois.
Oui, c'est génial. Voilà, donc un coup de pioche, il nous...
Il transperce.
Il nous transperce le fuselage, le plancher.
Et le plancher. Avec un plancher qui s'ouvre comme une canette de coca.
Ouais,
et
une boîte de conserve.
Ouais,
Et les mecs qui... Le mec qui arrive, au lieu de se dire, tiens, je peux tirer avec ma mitraillette.
Non,
combat à main nue.
Je laisse le flingue dans le cockpit.
Oui.
On sait jamais.
Hein,
j'ai un honneur.
J'ai un honneur. Et là, on a plutôt une scène de baston
classique,
mais sympathique.
Ouais, ça. Ouais.
Parce que le nazi, il est un petit peu plus tagué dans un tuteur à fraisier que l'autre, mais il se défend... Il se défend pas mal.
C'est une vraie bagarre.
Ouais, une vraie bonne bagarre.
Mais le nazi, il est pas fatigué.
Non, lui, bah non, il a passé toute sa journée le cul dans le char.
Ça fait deux jours. Hein.
Que ?
Bah, je pense qu'ils sont à deux jours, non ? L'action, elle dure
Ah oui.
T'as pas dormi, l'autre, tu le
Oui, parce qu'il y a la première journée, la nuit où il se fait pendre, et puis là, on est deux jours.
Sur la brèche.
Au taquet, Corpi. Et donc, ouais, cette scène de... Cette mort, cette dernière mort nazie, là, qui est, effectivement, qui est pas dans le top 3, mais qui est pas mal, quand même. Alors, c'est vrai, un peu gâché.
Moi, j'aime pas trop.
Elle est un peu forcée.
Alors, je suis d'accord, un peu gâché par le fait que le mec lui dise « fuck you
ouais, »
au moment où il tombe avec la bombe. Mais j'ai trouvé... Enfin, le move était sympa quand même.
Que drôle, en plus,
le mec, tu sais, le mec met la sangle de parachute là, autour de sa main pour le maraver. Et puis au moment où il essaye de le frapper avec le crochet, l'autre chope le crochet pour l'accrocher à la bombe et largue le truc... Tu sens effectivement un petit peu venir. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette bombe, dans cet avion ? Ça n'a aucun sens. C'est un transport de troupes. Hein. Là-bas, c'est pas un bombardier, donc ça n'a aucun sens. Et la scène se fait écho, en fait, quand la bombe tombe avec le commandant et qu'elle explose.
Ouais.
Et quelques secondes plus tard, quand l'avion lui-même tombe, s'écrase,
ouais,
l'espèce de geyser de terre, de poussière et tout, c'est à peu près le même. Et j'ai trouvé ça aussi. Très très bien, j'ai trouvé ça très bien rendu, très bien filmé.
Le colonel meurt en tombant avec la bombe accrochée à la sangle de parachutiste.
Ouais.
Notre ami pilote russe, qui a pris des bastos depuis le début,
meurt,
crève enfin. Derrière, l'avion descend, qu'on voit avec
la bouteille,
une scène classique.
Il se rend compte que l'avion commence à pencher avec la bouteille qui roule.
Et le mec, au lieu d'aller prendre le manche, s'accroche contre une paroi.
Ah, il n'est pas pilote, Corpi.
Je pense qu'il se dit que c'est trop tard. Et puis, c'est de la preuve que c'est pas lui qui conduisait déjà le premier avion.
Exact.
Il doit pas savoir piloter.
Ah putain, il sait faire plein de choses. Merde, ça non.
Donc, il se met dos à la cabine de pilotage. Il se sangle comme un malade. Et comme il refuse de mourir, il n'y a aucune raison qu'après un crash aussi violent.
En plus, ils assistent bien sur la vitesse de l'avion.
Putain, qu'est-ce qui tombe vite. Mais ouais. C'est clair.
Non, mais quand tu tombes dans la tourbe, tu t'écrases pas.
Exactement.
C'est mon petit côté commando, ça.
Oui.
Quand Schwarzy, il tombe pareil, dans les marais.
Dans les marais.
Hop. Petit atterrissage sur le cul et on repart.
Et puis on repart. Ouais. Et ben, Corpi, c'est pareil.
Ouais, Corpi.
On le voit réémerger de cette bouillasse. Il a gardé sa pioche à la main. Hein. Je pense que c'est le fil conducteur de son aventure.
Ah, c'est son porte-bonheur.
Bah, de toute façon, c'est avec ça qu'il trouve le filon d'or au début. Ouais. Voilà, il se balade avec. Il tue avec, il accroche l'avion avec. Aucune raison qu'il sorte pas de l'avion avec sa pioche, quoi. C'est normal.
Et puis là, qu'est-ce qu'il se dit, notre ami Corpi ? Bah, j'ai toujours mon pognon.
J'ai. Alors oui, parce que
peut-être que j'ai.
Il n'a pas perdu son pognon.
Il a pas perdu son pognon. Il était dans le. Comment le l'or était dans l'avion, donc il a. Il se l'est certainement mis autour de la taille et tout avant de se
sangler.
Et puis, il ressort avec. C'est pas indiqué dans le film, mais c'était marqué dans la bande-annonce. Quand ils trouvent l'or, c'est marqué prochaine banque 900 km.
Ah ouais ?
Ouais.
Putain, je me rappelle plus ça.
Alors, c'est pas dans le film, mais c'est dans la bande-annonce. Ah ouais. Donc, il avait quand même une petite trotte, effectivement, pour aller déposer son
pognon.
Ouais, je pense qu'on doit en être là, à mon avis.
D'accord, ok.
Donc ça redescend dans un Helsinki en fait, hein, c'est la grosse marade hein, là-bas. Il y a,
il y a des bâtiments
détruits en feu et tout.
Ouais. C'est sûr que c'est ça
ouais. Que c'est Helsinki? Non, pas du tout.
Ça se fait en fait.
Bah, bien sûr. Dans la bande-annonce, c'est ce qui est mis. D'accord. Il trouve son or et c'est marqué prochaine banque 900 km.
Helsinki n'a pas été bombardé comme ça parce qu'il part vers le nord.
Il n'y a aucune idée.
Non, je pense pas. Ah, c'est bizarre. Ouais, faudrait. Moi, je pensais que c'était la ville. Comment ça s'appelle Ravieni.
Ah oui. Ça, mais
c'est qu'on voit ouais, les panneaux.
Celle-là, pour moi, elle est plus figurée la nuit quand elle est en flamme, en fait. À mon avis.
Je pensais que c'était souvent celle-là qui était en flamme.
C'était vraiment une ville qui a été brûlée
oui,
quasiment
à 100%. Ah, je pense ouais. que c'est. D'accord, oui, bon.
Non.
Il a fait 930, quoi.
Il récupère son kleps, il récupère le sidecar, son clébard. Et il finit sa petite
entreprise.
Promenade de santé devant la Banque de Finlande et puis pour aller déposer son or quoi.
Les 200
en disant les deux seules phrases qu'il va prononcer de tout le film, donne-moi des gros billets, ça pèse lourd cette saloperie.
Fin. 1h25.
Bah, voilà. Et un générique derrière très très tarantinesque aussi.
Oui, complètement. Oui. C'est intense au final.
Oui, il n'y a pas de temps mort. Hein.
Non, pas vraiment. Non,
ça ne s'arrête pas à partir. Enfin, les temps morts, en fait, c'est les 10 premières minutes qui sont très, très douces, très calmes. Et puis à partir du moment où ça croise les nazis, ça ne s'arrête plus, quoi, jusqu'à la fin.
Avec un ton qui est quand même assez étonnant entre le début qui est des gros plans sur le paysage, un ton calme, après une vraie bagarre, tout comme ça, des moments assez loufoques, des moments burlesques, notamment avec la. Le sidecar, ça que c'est étonnant le ton qu'il peut y avoir dans ce film. Quoi. Parfois, un peu perturbé. Quoi. Je savais pas trop si
le truc un peu. Sur quel pied danser
par rapport au. Ouais, après, je comprends le côté film des années 80, les Rambo, où c'est complètement con aussi.
Oui.
Peut-être un peu. Ou qui se prend au sérieux aussi. C'est des films qui se prennent vachement au sérieux.
Rambo 2, ça se prend totalement au sérieux.
Rambo 3 aussi.
Tu crois Rambo. Ah ouais. Pour moi, ils avaient assumé le côté. Le côté complètement con.
Ouais. Ouais, c'est sérieux, c'est con, mais sérieux.
Là, effectivement,
là, c'est
oscille entre ouais, le sérieux, le.
C'est austère, quoi.
La boucherie, le burlesque, ouais, c'est vrai.
Ce qu'ils arriveront plus à reproduire dans le 2, où ils seront vraiment dans la surenchère, qui tient plus le truc.
C'est
quoi.
Leur Rambo 2, Rambo 3, en fait, 6 ou 2, en fait. Bah oui, non, mais tu vas plus loin dans l'absurde, tu vas plus loin dans les cascades. Tu vas plus loin dans le gore.
Et t'as plus l'effet de surprise. Quoi.
Et oui, t'as plus cet effet totalement.
C'est une fois qu'on arrive au cinéma, on sait pas trop ce qu'on
allait voir. Et en fait, parce que les méchants russes réagissent exactement de la même manière en fait, que les nazis.
Film,
en fait.
C'est exactement le même film.
Sauf que le but, là, c'est pas de conserver son or, c'est de conserver les planches et les poutres dans le bois de sa baraque. Ouais, c'est un point où Dieu sauve ça, qu'il précipite. Quand ils foutent le feu aux poutrelles et aux camions, ils précipitent le camion dans la mer pour éteindre le feu. Quoi.
Ah, c'est...
Surtout que la falaise, ouais, la falaise, c'est trop
belle.
Ouais,
c'est barjon. Et puis tu le revois après arriver avec toutes ces poutres. Et tout.
Ouais. Oui, parce qu'à la fin du 2, il arrive à reconstruire sa maison.
Bah, évidemment.
Il y a une morale, c'est important. Là, il sauve son or et dans l'autre, il.
D'ailleurs, pour un mec qui a gagné beaucoup d'or,
Il vit chichement. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'au début, c'est pas au début du 2, c'est pas la folie quoi.
Non, pas vraiment.
Pour un mec qui a mis 20 kilos d'or à la banque, ouais, clairement. Est-ce qu'on a aimé ce film?
On a aimé ce film.
Ouais. Julien.
Ah oui, non,
ouais,
j'ai aimé ce film.
Ouais, quand on
est sorti du cinéma,
toi, t'étais un peu plus sur la
raison. Mais clairement, c'était dans le gorge. En fait, je suis tellement resté sur le couteau dans la tête.
Ouais.
Que j'ai beaucoup aimé.
Mmh.
Je trouve
Oui, tu, parce que je me
souviens, voulu que ce soit plus comme ça.
Voilà, tu m'as dit, ouais. Tu m'as dit, ils sont pas allés assez au bout du concept. En fait, à un moment, ils se sont. T'avais l'impression qu'ils étaient peut-être un petit peu trop sur certains trucs, sur la retenue. Bah, en fait, ils avaient offert au début. En fait, ils sont pas allés au bout du truc, quoi.
Ah, c'est un équilibre fragile, hein, parce que si tu vas trop loin, bah, t'arrives aux deux, ce qui est pas bien, quoi. Et d'un autre côté, j'ai le couteau dans la tête, c'est plus mon délire, quoi. Plus que d'ouvrir un avion avec un ouvre-boîte en pioche, quoi. Donc, mais non, on avait passé un super moment, quoi.
Ouais, clairement, c'est passé.
Mais c'est bien quand tu le découvres, quoi.
Ouais.
Faut pas
se faire tomber. Le premier visionnage, c'est magique.
Complètement. Ouais. Moralité, si vous écoutez notre podcast et que vous venez d'arriver à la fin,
c'est con. Vous auriez dû le regarder, avant. Clairement.
De toute façon, il faut toujours voir les films.
Bien sûr, il faut toujours voir les films.
Et c'est basé sur une histoire vraie.
Alors, non, je l'ai classé sur histoire parallèle quand même. Faut pas pousser mes
bébés. C'est possible que ce soit parallèle.
Ouais,
quand même. Le principe de base est vrai. Une retraite allemande.
Ah oui, sur le contexte historique.
Les Finlandais qui les chassent, on les verra jamais. Donc, il n'y aura aucun Finlandais du film à part les femmes et notre ami Korpi.
Et les 3-4 soldats là, à la fin, quand les filles elles arrivent avec le chat le sergent qui est enchaîné au canon.
Elles arrivent où?
Elles arrivent, comme elles redescendent, elles arrivent à la rencontre des forces finlandaises qui elles montent.
Non, c'est l'espèce de frontière.
C'est l'armée, elle parle finlandais. Ouais. Et c'est l'armée finlandaise en fait.
Oui.
Qui leur demande ce qu'elles font là, machin et tout.
C'est pas une frontière.
Non, c'est pas une frontière. Elles descendent vers le sud.
C'est normal.
Et elles croisent l'armée qui remonte.
Ouais, tout à fait.
Puisqu'il y a un moment, un soldat qui arrive en courant qui vient et qui était en éclaireur et qui dit y a un truc qui arrive quoi. Ben voilà, c'était si sourd. On a passé un bon moment, on a bien aimé. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur. Sur ce film?
Non, pas vraiment.
Regardez-le.
Ouais, regardez-le.
Encore. Même là, moi, je l'ai vu deux fois. Hein.
Prenez du plaisir.
Regardez-le à plusieurs, je pense.
Ouais. Je pense que, tiens, la prochaine fois, je regarde ça, ce serait pas mal à plusieurs.
C'est pas l'idée, hein, mais simplement.
C'est... Mais nous, on était quoi? Il y avait 100, 150, peut-être, dans la salle.
Oui, au max.
Et à certains moments, ça rigolait. Ça rigolait quand même bien de bon cœur.
Que les gens ont été cueillis parce que personne ne savait ce qu'il allait voir.
Ouais, c'était totalement la surprise, quoi. Ouais. Le seul pitch qu'on connaissait, c'est un mec finlandais qui tue des nazis, quoi. Donc, ok, vous m'avez vendu le film, maintenant voyons ce qu'il propose. Quoi.
C'est quoi la suite?
Est-ce qu'on a des petites recommandations à faire? Qui veut commencer?
En avoir. Ça fait un moment que j'en ai pas donné.
C'est vrai,
Thibaut.
J'ai un film qui s'appelle longtemps. The Apprentice. Qui est sur notre ami Donald. This film is amazing, it's amazing, it's the best movie you've ever seen. You've never seen a movie like that.
This movie is a very good deal.
Bon, c'est un film sur la genèse de Donald Trump, son ascension au firmament du business immobilier.
Et de la fille de puterie.
Et de la fille
déjà,
de puterie
à l'époque.
Et assez intéressant avec un acteur principal qui.
On le reconnaît pas, hein, Sébastien Stan. Non. C'est ouf. Hein.
Et par contre, on reconnaît très bien Donald Trump.
Oui.
Et vraiment très cool.
Enfin, il a pris une intonation de voix qui est incroyable.
Ouais, c'est facile. This is amazing. This is amazing.
Vous avez vu cette vidéo de cet écossais, de comédien écossais là, qui reprend Donald Trump avec un accent? Non, ça vous dit rien?
Ça ne dit rien.
Ah, enfin, vous l'avez vu.
Tu nous envoies ça, ouais, très très bien. Et un petit docu assez cool sur Arte, parce que c'est que j'aime bien regarder Arte.
Ouais.
Qui s'appelle High School Radical, qui est aussi tourné très Amérique de Trump. C'est sur un jeune Français qui est maintenant un journaliste, qui était parti faire une année d'exchange student d'ailleurs je ne sais plus quel état, je ne sais pas, le Minnesota, dans un lycée au Minnesota, qui a rencontré plein de potes, qui a vécu une super période de sa vie, et puis en fait, qui voit les États-Unis virer à Trump, qui voit surtout ses potes...
Pendant qu'il est là-bas ?
Non, qui en fait, bien après,
qui
vire plutôt côté Trump. Donc il voit l'élection aussi, et puis il se dit, putain, mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir comment ces gens-là sont devenus depuis qu'il y a Trump au pouvoir. Et donc il débarque, il discute avec ces gens-là, c'est juste avant l'élection Kamala Trump. Donc il va re-rencontrer ces gens-là, qui ont certains changé un peu, d'autres pas trop, d'autres qui veulent pas le voir, d'autres qui sont malheureusement décédés. Il rencontre sa famille d'accueil, tout ça. Et puis il va aussi à un événement de campagne de Kamala Harris, à un événement de campagne de Donald Trump. Donc tu retrouves un peu, enfin tu essayes de comprendre pourquoi les États-Unis
ont la température,
ont brillé, ouais, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ces États qui sont des États un peu swing state, je crois. Et vachement intéressant, il fait ça, il avait filmé, donc tu vois ses vieilles images, il filme un peu caméra au point. Il revit, tu sens qu'il a sa réminiscence de quand il était là-bas, quand il a découvert un peu le rêve américain, les cœurs de donuts, les matchs de sport, enfin de foot américain de lycée, tout ça. Et puis le fait qu'il déchante quand il retrouve des gens avec qui c'était bien entendu, il se dit mais ces gens-là peuvent pas voter pour Trump. Et pourtant
ils le font.
Et il a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il demande aux gens, il discute avec eux, il prend des nouvelles, puis il leur dit fermez les yeux. Il a une casquette Kamala, une casquette Trump. Il leur demande de rouvrir les yeux et de leur dire ok, vous, enfin maintenant
vous prenez laquelle.
Et bon, c'est là que c'est frustrant pour lui, c'est qu'ils prennent beaucoup Trump, mais tu sens qu'il y a ce côté, on a bien vu qu'ils ont fait gagner l'élection. Quoi. Il parle aux gens, les gens ont l'impression d'être écoutés pour une fois, que c'est pas le grand système politicard américain qui leur parle, qui parle à leurs problématiques à eux, et qui sont globalement complètement à voir.
Okay.
Donc vachement intéressant, je crois que c'est 5 épisodes.
Ah oui, d'accord, c'est pas un truc d'une heure.
Non, par contre, c'est 5 épisodes de 20 minutes.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est assez rapide, oui. Mais vachement intéressant.
High School Radical.
High School Radical.
Julien ?
Ouais, je pensais qu'en politique de la terre brûlée, je me disais qu'il serait, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je pense que c'est le moment de regarder Requiem pour un massacre, quoi. Film de rigolade.
La
rigolade, Non, mais bon.
On se marade.
Si vous voulez un film de guerre qui parle de la guerre, Requiem pour un massacre, c'est un chef-d'œuvre, quoi.
Campagne de Russie, donc.
Campagne de Russie, ça se passe en Ukraine, je pense.
C'est possible, oui.
Peut-être Biélorussie ou Ukraine, je ne sais plus.
Ah, peut-être Biélorussie.
Biélorussie, ouais.
Sur la retraite.
La retraite russe.
La retraite allemande.
Retraite allemande, oui. Retraite allemande.
Après Stalingrad, oui.
Et les yeux d'un enfant qui voit ça. Et un film extrêmement prenant, dur.
Gabriel, il a dû faire la richesse de son psychothérapeute.
Tu connais l'histoire. Hein. Pendant le tournage du film, ils avaient un psy qui suivait le gamin.
Il a 8, 10, 10,
bah, 10 ans.
10, 12 ans, ouais.
C'est tellement dur ce qu'il voit, le gamin, que. Parce que les scènes sont tournées comme si c'était réel, quoi. Non, mais par contre, c'est un super, super film de guerre, quoi. T'as pas envie de. T'aimes pas la guerre après un film comme ça, et c'est très, très chouette. T'as déjà vu Thibaut ?
Non.
Je le conseille fortement.
C'est la bonne place dans la marade quand tu vas avoir un enfant, c'est
cool. Ah oui,
peut-être après.
Peut-être bien après, ouais.
Ça fait pour moi partie des grands films de guerre. Hein. C'est des films comme ça qui m'ont marqué. Croix de fer m'a marqué aussi. Mais Requiem pour un massacre, très bien. Et toujours dans cette ambiance, Arte a fait. On a déjà parlé des doubles documentaires, donc deux fois séparés, mais en fait, ils se rejoignent. Deux fois deux épisodes. Le premier, c'est sur les SS français. Tu l'as vu ?
Je l'ai pas encore vu, mais.
Pas que ça. Les SS français qui s'engagent dans la Wehrmacht. Et après, ils vont aussi sur les liens entre l'extrême droite française et le Rassemblement national, justement, avec ses origines. Et en fait, les deux se regroupent, quoi, entre les SS français dans la Wehrmacht, qui est vraiment très bien. C'est un double épisode, donc ça parle forcément de la division Charlemagne, parce que c'est celle qui est la plus connue, mais ça parle pas que ça, ça parle vraiment de son existence, des origines, de toutes ces figures qu'on connaît, Doriot, Laval, tout ça, et puis voir ces gens qui sont jeunes, qui s'engagent jusqu'au boutiste, et leur idéologie, et de voir après, quand tu regardes leur portage, donc ça c'est les deux épisodes, ça se termine en 45. On retrouve après un double documentaire sur sur le Front National français. Et tu retrouves en fait des ramifications, bien sûr, parce que ces gens-là n'ont pas disparu, quoi. Ils ont continué d'être actifs, mais d'œuvrer dans l'ombre de tous les partis, différents partis français. Quoi. Ouais. Donc c'était vraiment sympa à voir. Hein, de toute façon, les QM pour un massacre pour la rigolade.
Ouais.
Et puis les SS français dans la Wehrmacht pour se finir, quoi.
Allez.
Oups.
Et Thomas,
allez, oupsi. Alors moi j'ai une bande dessinée à vous recommander. Oh. Ouais, qui s'appelle Madeleine Résistante. Voilà qu'on m'a offert récemment et qui est un super. Alors c'est en 4 ou 5 tomes, je crois. Et puis c'est des bouquins, enfin chaque tome fait 80 ou 100 pages, tu vois, donc il y a quand même de quoi. C'est pas en couleur, mais c'est pas en noir et blanc non plus. Tout le dessin est dans une trame un peu bleutée qui donne un rendu qui est magnifique. Et donc ça parle depuis son enfance jusqu'à son âge adulte d'une nana donc qui s'appelle Madeleine et qui voit France rentrer en guerre en 1939, perdre la guerre au printemps 40, et qui va s'engager dans la résistance. Après, ce qui est hyper intéressant dans cette BD, c'est que la vraie Madeleine, elle a été contactée par le scénariste et le dessinateur, et en fait, elle est devenue une sorte de consultante pour l'écriture et le dessin de ces bouquins-là. Et la BD en fait en parle au début et à la fin du livre. Ils ont mis en fait en image les discussions qu'ils ont eues avec elle quand elle était dans les années 80-90, quand elle était une vieille dame, une mamie, quoi. Et ils insistent énormément sur les relations très humaines et d'amitié, en fait, qui se sont tissées entre elle et le scénariste et le dessinateur pour parler de ça. Ouais, c'est très... voilà. C'est vraiment super, c'est magnifique. Donc... on m'a offert récemment les derniers tomes, mais le premier quand on me l'a offert, il y avait une centaine de pages, j'ai dû avaler ça en moins d'une heure et sans pouvoir m'arrêter, tellement c'était super. D'accord. Donc voilà, Madeleine Résistance.
C'est moi, je regarde un petit peu là, c'est Jean-David Morvan, un mec qui a travaillé Sillage.
Voilà pour cette reco qui est liée un petit peu à la Seconde Guerre mondiale. Et je vais vous recommander, parce que ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir en France. On a été en fin d'année dernière à un concert de musique classique.
T'allais voir Céline Dion.
Je mets musique classique. Non.
À Las Vegas, et pas du tout. Nous en parler.
Super boulot parkour.
Pas du tout. Mais Candlelight. Quand vous allez. Quand je dis musique classique, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que on a été à un concert au Zénith à Nantes qui mixait les musiques de Nino Rota et de Ennio Morricone. Donc voilà, on avait un orchestre, sur scène, on avait une cantatrice qui était là. Donc sur un concert qui a duré un peu plus de 2 heures, ouais. Presque 2h30 je crois. On en a pris plein les oreilles sur plein de musiques forcément qu'on connaissait.
Pas que.
Hein ?
Pas que, j'imagine.
Non, il y en avait aussi qu'on connaissait pas,
tout
mais...
De Diallo, tout ça.
Probablement, ouais. Donc, alors, le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'à aucun moment, ils nous mettaient les titres des films qui correspondaient. Alors, on avait des fois des animations sur un fond animé. Donc, quand on avait le clan des Siciliens, forcément, j'avais reconnu la musique.
Le professionnel,
tout ça. On reconnaissait le professionnel. Il était une fois dans l'Ouest, tout ça. Enfin, voilà. Les Incorruptibles, le Parrain, enfin bref. Mais pour les musiques qu'on ne connaissait pas, tu vois, on ne pouvait pas l'associer à un film parce qu'on n'avait pas le nom qu'elle allait avec. Mais on a passé 2h30 extraordinaire. C'est la première fois que j'allais voir
Abolition.
Un...
Hein? Abolition.
Aucune idée.
Ils sont bien. Ouais.
Et c'est surtout que il y avait un. Oui, il était premier violon. Ouais. Il y avait un gars donc, qui était premier violon qui n'était pas tout le temps là. Et à la fin, il est revenu sur les 2-3 dernières musiques. Il est revenu sans son violon. Et il a fait les musiques des westerns qu'on connaît en sifflant. C'était absolument bluffant, quoi. Parce que tenir les notes, etc., à ce niveau-là, c'était. C'était incroyable. Et en faisant des petites recherches à la fin du concert, comme on a vu que le chef d'orchestre, ouais. C'était le neveu de Nino Rota.
D'accord,
donc, il lui donnait effectivement beaucoup de légitimité par rapport à ça. Et surtout, alors, par sa filiation, en fait, avec Nino Rota. Mais c'est surtout qu'on a appris, en lisant pas mal de article, qu'en fait, pendant toute sa carrière, il avait travaillé de manière très étroite avec Ennio Morricone.
D'accord.
Pendant plus de 30 ans, en fait. Okay. Voilà. Et ce qui lui donnait une bonne légitimité. Donc voilà, c'est la première fois que moi, j'allais voir un concert de musique de film, de compositeurs de musique de film. Et donc, je ne peux que vous inciter tous à... Si vous en avez l'occasion, allez voir ça.
Ça me tente très bien, celui-là.
Ah ouais. Et ça fait... Ça, là, en l'occurrence, tu vois, c'était en novembre-décembre, je crois. Mais il faisait le tour de la France avec beaucoup de dates. Et je pense qu'il doit faire le tour de l'Europe, à mon avis. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, ça reviendra. Et c'est une expérience assez exceptionnelle. Enfin, la partie cantatrice de Il était une fois en, du thème d'Il était une fois en Amérique, oui. Avec la cantatrice qui était sur scène, c'était électrisant, quoi. Tout le monde était.
Ça donne envie de revoir le film, quoi.
Ça donne envie de revoir tous les films. C'est ça le problème. Ouais. Mais voilà, si vous avez donc l'occasion d'aller voir ce genre de concert, bah, surtout.
J'étais tombé sur ce surtout film. Surtout, allez-y. Il n'y a pas longtemps, je suis resté bloqué, j'ai tout regardé.
Bah oui. Voilà pour mes recos.
Mais c'est très bien, tout le monde. On termine par du Ennio Morricone, c'est top.
Bah, après des nazis morts, ouais. C'est...
Oui,
c'est pas mal. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver les épisodes du podcast sur notre site en écoute directe et téléchargement www.babygraveur.com. Et vous pouvez également nous suivre sur Skyrim. Julien Thibault, toujours aussi invisible sur les internets.
Toujours.
Et bien pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les podcasts et vous trouvez ça drôle vraiment sur les comédies françaises et Dieu sait que nous sommes français. Date de sortie sur Club Film Improbable et sur je parle de publicité, foot, US, Formule 1.
Tout plein de trucs futiles.
Tout plein de sujets futiles et totalement inutiles. Messieurs, comme toujours, ça se fait plaisir.
Parce que Thibaut, il a voyagé récemment.
Ah oh là là là, putain.
Thibaut, voilà. Pensé à vous,
la scène post-générique qu'on n'attendait pas. En live.
Tiens, on va commencer par ça pour toi, Julien.
On dirait un gâteau.
Et Thomas. Ah oh, bah tiens.
Une cloche.
Oui, pas n'importe quoi.
Tromps. Elle est belle.
Elle est belle, hein.
Franchement, ouais, chouette, ouais. Ouais, c'est de la corne.
C'est de la corne de reine.
C'est monsieur. De la corne de reine.
Waouh. Et toi, alors, t'en es où? T'es ok? Attention, t'en es où?
Oh, c'est un Made in France. Oh, Deauville.
Oh, Deauville. Ah, oh, Deauville. Petit week-end à Deauville.
Non, t'es pas loin. T'es
ah, d'accord.
Ah, oui.
Ah, non, s'il n'y a pas la cloche de Deauville, moi je.
Oh, putain. Il est beau, attends, ils sont beaux, hein.
Ah. Ça, c'est le celui de...
Norway.
De Norway.
Ça, il est beau, hein.
Ça, il est beau, hein.
Ah, bah, la cloche d'Ovide. Bah, je l'avais pas.
Ça t'en parle.
Comment ça, là? Ah non, dis non.
Dis non.
C'est Il y en a eu une troisième. Ou pas.
Ah, merci, Deauville.
Ça, ça a vraiment voyagé. Oh, il y a, il y a, il y a. J'aime pas les
livres. Oh, quel
chouette. J'ai une pensée pour Julien Bachelet qui va recevoir à son retour en France un jour tous ses cadeaux en même temps.
Il est cassé, ce bâtard.
Oh, la vache.
Elle est belle, ça.
Elle est incroyable.
Incroyable.
Ouais. Celle-là, les deux, là, je vais les mettre. Je vais les mettre sur. Je vais les mettre en frottant sur mon Skype. C'est donc une cloche décapsuleur avec des dés intégrés. Oh là là, ça ne s'arrête jamais. Donc il y a eu beaucoup de voyages. Hein.
Oh, il y en a eu deux. Il y avait beaucoup de magasins de souvenirs à Tromsø.
Celle-là, elle est classe.
Beaucoup trop.
Oh, mais on entre.
Ça, c'est une cloche de. Le capitaine de bateau, monsieur.
Captain's Bell.
Acheteur en fleurs. Pour pouvoir sonner la...
Hey, chouette.
Ok, on entre.
Elles sont belles, tu commences à avoir une belle collection.
Hein. This is not a toy, ce n'est pas un jouet. Mais dis donc. 4 4 d'un coup, là, la vache.
Oh, ça faisait un moment que je n'avais pas distribué.
Ah oui, c'est
oui, la vache à 4 shooters.
Et la 4 shooters. Il y en a un ou deux à la maison.
Il y avait beaucoup de magasins de souvenirs à prendre.
Ah
oui,
ouais,
je peux te dire, je n'ai pas pris les meilleurs. Et celle-là, avec les dés comme ça, là. Ah plus des caps.
Il y a des capsules.
Ah oui, il y a des capsules.
Ouais, super, très classe.
Oui, parce que sur une petite cloche, quoi de plus normal que d'avoir des capsules.
Mais celle-là, t'es sur le bateau. Et...
Mais celle-là, elle est super. Hein. Elle a une.
T'as l'impression.
La partie cloche est comment est en fer émaillé bleu là et le manche en
bois de renne.
En bois de renne, c'est superbe.
Ah oui.
Ils sont beaux, tes petits trolls. Hein.
Ah, ils sont super. Ouais.
Ah ouais, ils sont super.
Oh, putain, super. Je me suis dit que Deauville, c'est la reine, c'est un endroit où t'aimes aller.
Bah, j'y vais tous les étés.
Petit troll, là. Super.
Celui-là, super.
Le Dinan est pas mal. Hein.
Un classique, le Dinan. Ça me rappelle.
Ça, c'était pour tes origines bretonnes, tu vois.
Ah, c'est un chouette pays. Hein.
Oh, ouais. Et voilà.
T'as pas eu trop de mal à les trouver,
non. Non. Je peux dire qu'à Tromsø, je pense qu'à chaque coin de rue, il y a un magasin de
souvenirs.
De souvenirs. C'était... En fait, on a fait plusieurs tours avec Murantin.
C'est comme dans certains villages d'Écosse. Il y a des magasins de souvenirs un petit peu partout. Vous le verrez prochainement.
Et là-bas, je sais pas que tu dises, mais j'ai un joli shooter en forme de corps d'homme avec les pecs et tout. Avec les drapeaux de la Bretagne en slope.
C'est super. Ouais,
ouais. J'ai des trucs qui viennent de Norvège, il est pas prêt.
Magnifique, magnifique.